Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'Intégral Sport que vous écoutez. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h cet après-midi. On va revenir évidemment sur le premier match, la première demi-finale du top 14 qui s'est déroulée hier soir. On était ensemble et avec Pierre Thévenet, avec Denis Charvet, avec l'incroyable victoire du Stade Toulousain qui s'est imposé avec la manière et quelle manière face au Racing qui n'a pas vu le jour dans cette première demi-finale. On va s'y intéresser dans un instant avec quelqu'un qui revient de Marseille. Il a émis une casquette pour pas qu'on le reconnaisse dans le train. Julien Brugnot, évidemment ancien pilier du Racing qui était descendu avec toute l'équipe. Ça devait être la fête. Vous êtes rentré un peu avec la queue entre les jambes, non?
Bonjour à tous. On est rentré un peu abasourdi par ce scénario. Ouais, c'est vrai que ça a été un supplice en tout cas pendant le match. On n'a pas reconnu l'équipe qui a grandi, qui a été construite par le staff de Patrice au fur et à mesure de l'année. Je pense que la victoire et à Pau le week-end dernier finalement a finalisé un peu l'histoire de cette année, de cette saison. Et c'est vrai que hier,
c'était un peu votre finale en quelque sorte la semaine dernière à Pau, où vous avez quand même consommé beaucoup d'énergie pour aller arracher ce billet pour la demi-finale sur la pelouse du Hameau face à une équipe de Pau qui a vraiment rien lâché jusqu'à la dernière minute. Donc c'est sûr que ça dépense beaucoup d'énergie.
Alors, beaucoup d'énergie. Les Toulousains se qualifient également en barrage.
En plus, vous terminez cinquième quand même de la saison, quoi.
Qui était dense. Donc on a dû cravacher jusqu'au bout. Et c'est vrai que ce match de Pau nous a laissé beaucoup d'énergie.
Alors là, on va y revenir dans un instant. On va écouter les réactions réalisées par nos envoyés spéciaux, Pierre Thévenet, Julien Landry et Romain Asselin qui s'est déplacé. C'est l'homme des finales et des demi-finales, Romain Asselin. Il aimerait bien voir la Rochelle un jour à nouveau en demi-finale ou en finale, mais en attendant, il est là, il va à Bordeaux pour fêter le titre de l'UBB, il va à Marseille pour voir Toulouse éclater le Racing et ce soir, il sera également au Stade Vélodrome pour le deuxième match. Comment ça va, mon Romain?
Bah écoute, ça va très bien. Moi, j'aime bien les grands messes, tu vois. Je suis toujours là, au rendez-vous du printemps.
Ouais, et puis toi, la différence quand même de Julien et de Pierre Thévenet qui sont à la plage, toi, t'es un garçon sérieux. Tu es un garçon sérieux qui reste avec moi. Tu sais que je t'emmène avec moi dans mes bagages sur le Tour de France. Donc,
bien sûr, tu
n'as pas pu refuser mon invitation et partir à la plage avec les deux touristes, là.
Bon, non, t'inquiète, je suis là. Je suis au rendez-vous.
On va donc revenir sur ce match puisque vous êtes allé dans les vestiaires hier soir à l'issue de cette rencontre. On le rappelle, 71 points inscrits par Toulouse. Je crois que c'est le plus gros score jamais réalisé dans une demi-finale top 14.
Malheureusement, la plus grosse différence, oui.
Ouais.
Et le grand nombre d'essais aussi, hein, 12 au total, hein, 10 pour Toulouse, 2 pour le Racing. Ouais, on n'a jamais vu ça, quoi. Tu le disais, hein, Julien, enfin, on était stupéfait, quoi. Hier, tout le monde, hein, le public, les joueurs, enfin, c'était incroyable ce qui s'est passé hier au Vélodrome.
On pensait que le score qui avait été justement le score de la finale 2024 où Toulouse avait battu l'UBB 59-3, je crois, hein, c'était le score.
Et
bien hier, on a atteint ce score à un moment, mais il restait 25 minutes encore à jouer. Là, on s'est dit, en plus, je trouve que le score collait vraiment au nombre de minutes disputées. Je me dis, on va atteindre les 80. On n'est pas passé loin, mais on les a pas, heureusement, on les a pas atteints quand même.
C'est marrant, tu me fais revivre le supplice d'hier. J'ai l'impression que ça va être une émission très sympathique.
Tu sais qu'il me regarde d'un air mauvais.
Non, je te regarde, je suis encore.
Attention, c'est un pilier, attention, on fait gaffe.
Non, mais hier, franchement, on a une équipe de Toulouse qui maîtrisait parfaitement son sujet, qui a tout gagné dans tous les duels, dans tous les secteurs, et une équipe du Racing qui était en retard à peu près sur tout. Donc, mis à part les trois premières minutes où on a gagné ce duel aérien, où on a marqué les trois premiers points, après, malheureusement, ça a été très compliqué, en plus, dans la stratégie, parce qu'au début du match, tu perds Shinge Manyara, qui, dans la stratégie, en fait, avait un joueur un peu mobile, tu le perds sur
ça. Tout seul en plus, hein.
Tu perds Boden, ça somme tout seul sur Meafou. Tu perds Boden sur un carton jaune. Donc tu te retrouves avec 6 avant, un peu moins mobile. Enfin, c'est une équipe qui déplace le jeu, qui veut déplacer le jeu. Tout était écrit pour que ça se passe pas très bien.
Il y a rien qui s'est goupillé comme
il y a rien du tout.
Le Racing l'espérait, quoi.
Non, on n'a pas retrouvé les fameux hommes forts.
On n'a pas retrouvé l'équipe de la semaine précédente face à Pau. Alors, tu me diras. Non seulement il y avait la fatigue engendrée par ce match de barrage, et il y avait face au Racing le grand Stade Toulousain, celui qu'on voit qu'en fin de saison.
C'est un constat qu'on peut faire. Hein. C'est vrai que le Stade Toulousain qu'on a vu hier est une équipe qui déroulait. Moi, je voyais la froideur, en tout cas, du regard de Ntamack à chaque transformation. Il fait un 100%. À chaque fois, dans toutes leurs actions, il n'y avait pas d'euphorie. Ils appliquaient un plan parfaitement. Je me rappelle avoir vu sur différentes positions le petit Gibert qui défendait. À chaque fois, les Toulousains, ils prenaient le temps de lire bien. Ils attaquaient sa zone. C'était vraiment, c'était chirurgical. Ils avaient un plan, ils l'ont appliqué à la lettre. Et malheureusement, nous, on n'a pas eu l'énergie, en tout cas, pour créer des momentum sur des choses simples, même des rushs défensifs, on a tout subi.
Romain, comment étaient les Toulousains en conférence de presse et en zone mixte après la rencontre? Parce que sur la pelouse, Hugo Mola a gardé le masque, même après s'être imposé de la sorte. On a l'impression que
Julien l'a dit, hein.
Voilà, c'était
pas d'euphorie en fait. C'est, on vient en conférence de presse parce qu'on est obligé, mais dépêchez-vous, on reste 5 minutes, on s'en va. On prend le bus, on rentre à la maison. Il n'y a pas d'euphorie. Et je veux dire, enfin, c'est presque incroyable. C'est-à-dire que les joueurs ont presque banalisé l'exceptionnel hier. C'est fou de se dire ça. 71 points. Enfin, je veux dire, c'est un truc complètement dingue. C'est, on l'a dit, hein, tous les records. Tiens, je vais vous donner d'autres stats. On a 800 mètres parcourus par les Toulousains. On a 40 duels gagnés. C'est stratosphérique. Quasiment 10 franchissements. 15 offload. Enfin, je veux dire, ils ont surdominé ce match. Et ce qui est dingue, c'est que, et François Kranz en parlait très bien après match, c'est que autour de l'heure de jeu, ils ont pris le temps de se poser quand même, de savourer un peu le truc, de profiter, de se dire non mais attends, c'est complètement, enfin c'est fou ce qu'on est en train de faire. Et c'est rare dans un match de phase finale de pouvoir se permettre d'avoir ce luxe-là. Maintenant, ils l'ont dit aussi, ok, on a fait ça, c'est dingue, mais rien n'est fait. Parce qu'il reste un match la semaine prochaine. Mais ils ont quand même envoyé un sacré message. Parce que on en parlait encore ce matin dans les grandes gueules. Et ces dernières semaines, il y avait quand même beaucoup de doutes qui entouraient cette équipe, qui n'avait plus gagné de matchs consécutifs, qui n'a plus gagné de matchs consécutifs depuis quand même le mois de février, qui enchaîne une bonne performance, une contre-performance. Il y a eu ce carton au Vélodrome au mois de mai où ils ont mis encore 50 points. D'ailleurs, au Vélodrome, mais c'est le tarif minimum, hein. C'est 50 points contre Toulon deux fois en deux ans. La finale.
Ah, ils aiment bien face cette pelouse au Vélodrome.
Hein, ça réussit bien. Hein. Ouais, non mais
du Racing,
on était tous stupéfaits hier. Hein.
On a toujours perdu au Vélodrome.
Ah ouais.
Contre Montpellier, contre Clermont et là contre Toulouse, on a toujours perdu.
Ah ouais, donc c'était pas le bon plan.
Non, c'était pas.
Et puis rappelle-toi que Patrice Collazo avait perdu au Vélodrome aussi avec La Rochelle, sa première demi-finale, c'était il y a quasiment 10 ans sur un drop d'Anthony Bello. Donc je pense que hier il avait bien les boules aussi. Patrice Collazo.
Après, faut pas non plus.
Douloureux, hein, le Vélodrome.
Faut se rappeler quand même que le Racing, notamment avec l'arrivée de Patrice il y a 18 mois, est un Racing en reconstruction quand même. Oui, mais là il est plus. Là, il est en train d'installer les extincteurs à droite à gauche. Là. Mais pour l'instant, il est en train de construire. Donc, c'est vrai que le groupe, même si on a pris goût, en tout cas à la victoire, on a pris goût aux phases finales, c'est un groupe qui est rajeuni. Il va se remodeler l'année prochaine. On n'est pas à la même étape que Toulouse. Toulouse qui est finalement a soigné. Ouais,
mais personne n'est jamais à la même étape que Toulouse. Il y en a qui s'en approchent de l'étape de Toulouse. La Rochelle s'en est approchée. L'UBB s'en est approché. Clermont s'en est approché. Montpellier. Mais bon, au bout du compte, ils vont viser un 25e bouclier. Donc, est-ce qu'un jour une équipe sera vraiment à la hauteur de cette formation? Franchement, moi aujourd'hui, j'en doute vraiment. Je me dis que cette domination, elle est appelée à durer des dizaines d'années, à moins qu'ils se fassent vraiment taper sur les doigts et qu'on surveille complètement le salary cap. Mais cette équipe, elle est en avance surtout dans la façon de faire, dans la façon d'aller chercher des joueurs adverses, dans la façon de gérer une saison. Regarde, ils sont qualifiés depuis le mois d'avril. Et ben derrière, effectivement, quand t'es qualifié depuis le mois d'avril, tu peux
tu relâches
justement, tu peux faire relâcher certains joueurs.
Tu manages, tu relâches, tu prépares en tout cas, tu intéresses, tu relances des joueurs.
Tu les mets au frigo. Regarde les Racing Men, ils sont arrivés, ils étaient fribouillis hier soir sur la pelouse du Stade.
J'ai une question pour toi sur la stratégie francilienne. Ils ont eu très peu de possession, très peu de ballons en fait hier, notamment je vais me cantonner à la première mi-temps parce que finalement il y avait plus de suspense à l'issue de la mi-temps. Le peu de ballons qu'ils ont eu. Et notamment, je pense à Antoine Gibert sur deux situations qui se débarrassent complètement du ballon. Comment tu l'expliques, toi? C'est que les Toulousains sont rentrés dans leur cerveau. Et comment tu peux espérer quelque chose en rendant le ballon comme ça aux Toulousains? Et à chaque fois qu'ils l'ont rendu, en plus, ça a été
grâce à vous, les médias, en fait, vous avez bien identifié les points positifs du Racing, notamment les X-Factors. Et c'est vrai que du coup, ils se sont concentrés notamment sur les premières phases de jeu, à les bloquer, à ne pas générer de l'avancée. Et après, avoir une défense qui était très agressive, très bien organisée. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais des fondamentaux de Toulouse. On parle de Toulouse, je mets un jeu de Toulousain, mais Toulouse hier ont été impérieux sur les rucks, sur la défense et sur la conquête.
Bien sûr, il n'y a pas que le jeu de main, jeu de Toulousain, devant,
c'est
du costaud et c'est du très costaud. Alors, tu disais que la presse a servi au Stade Toulousain, et pas que de ce côté-là, puisque vous savez qu'on a quand même remis en cause, et nous les premiers, enfin peut-être pas les premiers, mais nous aussi on l'a fait dans notre podcast Entre les poteaux, en disant est-ce qu'il faut s'inquiéter pour Toulouse, est-ce que Toulouse va réussir à retrouver son niveau, tout le monde n'était pas d'accord là-dessus, est-ce que Dupont va retrouver son niveau, et ça évidemment, quand t'es manager du Stade Toulousain, tu l'entends, tu le répercutes au sein de tes joueurs,
et bah, c'est du pas béni, hein,
et
pour
tu attends la réaction. Guinovès a toujours fait comme ça, Hugo Mola est le digne héritier de Guinovès, et il s'en est servi, et il l'a même avoué hier soir, on l'écoute.
Ouais, mais c'est grâce à vous. C'est souvent grâce à vous. Mais il n'empêche que je doute encore. Et le doute, c'est pas une maladie. Le doute, c'est quelque chose qui nourrit l'éveil, qui nourrit l'attention, qui nourrit la capacité à se remettre en question. Ce groupe-là, il a besoin d'être très certainement dans le doute et avec un petit brin de peur. Ce soir, ils ont joué à leur niveau et on va éviter de tirer des conclusions qui seraient malheureuses et qui serviraient personne d'autre que nos adversaires de la semaine prochaine.
Donc c'est grâce à vous, nous dit-il, mais il n'empêche.
En me regardant droit dans les yeux d'ailleurs. Ah ouais. C'est moi qui lui ai posé la question, parce que la veille il nous avait dit mais continuez de douter de nous, c'est notre moteur. Continuez. Mais en même temps, quoi de plus normal. Enfin, je veux dire, c'est un peu. À un moment, c'est notre rôle aussi de poser des questions. Je disais tout à l'heure qu'ils n'avaient pas gagné deux matchs consécutifs depuis le mois de février. Forcément, ça soulève des interrogations dans un top 14 où il y a eu beaucoup de surprises ces dernières semaines. La victoire de Clermont à Toulouse, la victoire du Racing aussi à Clermont, la victoire de La Rochelle au Racing. On s'est dit, mais c'est tellement ouvert en fait, et Toulouse baisse un peu le pied. Alors vous me direz, il y a un Toulouse en fin de phase régulière, il y a un Toulouse en phase finale. Mais comment ne pas se poser des questions et en même temps vibrer à se dire peut-être que, alors peut-être, il y a peut-être la place pour un autre club, tu vois. Donc je pense que les interrogations étaient légitimes.
Ils sont encore meilleurs qu'on le pense finalement, parce qu'ils arrivent à engranger le nombre de points nécessaires en tout cas pour avoir une fin de saison tranquille, à aller chercher des points de droite à gauche pour être sûr d'être qualifié premier ou deuxième, et en même temps disparaître un peu du radar des bookmakers en fait, finalement. Donc du coup en fait ils font tout pour que ça se passe bien à la fin. Ils sont frais, ils sont organisés, ils ont l'effectif total, et en plus personne ne les voit arriver.
Et en plus ça les vexe qu'on ne parle plus d'eux. Il dit ah vous nous avez oublié, bah vous allez voir le week-end prochain.
Et ben pour
tout est bien quoi.
Ouais, pour avoir
participé. Mais il joue, Hugo Mola aussi.
Il joue pas de la Ligue. Thierry Lacroix, le président, s'en est même pris au représentant de Canal+, en leur disant, mais mon staff était jaloux, en fait, qu'on parle plus d'eux. On parlait de la deuxième et la dixième place. On parlait plus d'eux. Donc, en fait, vous inquiétez pas qu'ils scrutent et qu'ils se servent de tous les leviers, en tout cas, pour les motiver.
Évidemment, c'est un sacré levier de motivation pour un entraîneur. Tu l'as utilisé, toi aussi, Julien, ce genre de truc. Regardez ce que la presse dit de nous. Regardez ce qu'il a écrit sur vous, celui-là. Regarde, il te traite de tocard, tu le sais pas.
De la même école que les Toulousains. Moi, j'aime bien quand je parle à mes joueurs, je parle de leur aventure, je parle pas des autres, en tout cas. Je me compare pas aux autres. Quand on parle à ses joueurs, on parle de l'aventure, ce qu'on crée entre nous.
Ouais, non,
le respect, inventer un manque de respect.
Des critiques que certains ont pu émettre.
J'ai envie de te dire, ça doit fonctionner, puisque Toulouse le fait, ça fonctionne. Ouais, mais moi, je trouve que se servir de ces leviers.
C'est vieux comme le monde.
Oui, voilà. Mais il y a d'autres leviers avant d'utiliser cela, quand même.
Bon. En tout cas, c'est un des leviers qui marche du côté de Toulouse. On a donc vu une équipe toulousaine se préparer magnifiquement bien, ressortir son jeu des grands soirs. Et parmi les Toulousains au sommet de leur art avec certain Antoine Dupont qui nous a fait du Dupont. Ça fait plaisir là aussi de le retrouver à ce niveau. Est-ce que tu l'as croisé dans les vestiaires, Romain, ou pas de
par là, oula,
par la presse qui avait osé douter de lui.
Non, on se posait la question avec Pierre Thévenet et Julien Landry il y a une demi-heure. On n'a pas vu Antoine Dupont s'exfiltrer du stade hier. On n'a pas vu ni Romain Tamac d'ailleurs. Je pense qu'il est passé derrière les bâches de la zone mixte. Non, on l'a pas vu, mais c'est pas surprenant. Je pense qu'aussi c'est une raison pour laquelle Jack Willis a été nommé capitaine. Alors que, attention, hein, c'est un joueur incroyable. Il a fait encore un match incroyable hier. Mais le capitaine à chaque fois va à la conférence de presse veille de match. Et c'était Jack Willis pour éviter d'avoir Antoine Dupont face à la presse. Donc non, on l'a pas vu, mais il fait un match stratosphérique. Et dès les premiers instants, j'ai envie de dire, ses premiers ballons sur le premier essai, c'est lui qui décale. Il me semble Barassi sur son franchissement. On se souvient de l'espace aussi. Il y a un essai refusé où il part au ras. D'ailleurs, il nous a fait énormément de mal au ras. Ouais, exactement. Et puis c'est son jeu au pied de pression aussi, Julien, dans le couloir des cinq a fait beaucoup de mal. Enfin, je veux dire, il a une palette qui a sauté aux yeux hier dès le début et c'est quand même dingue ce qu'il a réussi à faire. Et
la qualité qu'il a, en fait, c'est que quand t'es sur le terrain, t'as pas l'impression qu'il fait des choses extraordinaires. Et quand tu regardes le match, en fait, tu vois que juste son coup de rein, son départ, sa vista, le fait qu'il porte la balle, qu'il alerte un peu les défenseurs, fait des décalages, en fait. Des petites choses, finalement, des choses un peu extraordinaires, il en a fait peu. Il y a cette remise intérieure en schistera, il y a deux, trois petits trucs qu'il a fait un peu extraordinaires, mais après.
C'est toujours juste.
C'est
quoi.
Juste, voilà.
C'est le petit détail, comme tu dis.
Il joue juste et il fait les différences qu'il met dans les bonnes dispositions, en tout cas, ses partenaires.
Ouais. Tiens, on va écouter Mathis Lebel, l'un de ses équipiers, parlait d'Antoine Dupont. Antoine Dupont qui a été absent pendant six semaines avant de faire un retour tonitruant sur la pelouse hier soir avec le maillot du Stade Toulousain. Mathis Lebel.
Il a fait du bien, les six semaines. Non, franchement, il a fait un gros match. Quand il est à ce niveau-là, il nous porte déjà rien que par l'aura qu'il peut dégager sur le terrain ou sa présence sur le terrain. Et en plus, quand il arrive à être décisif et à nous faire briller, à mener notre jeu, forcément, on le sait. Peut-être le truc en plus, c'est un joueur qui est différent. Je suis très content pour lui. J'espère qu'il fera une grosse performance surtout le week-end prochain. Et après, on fera un trait sur tout ce qui a pu être dit sur Antoine ou pas. Mais en tout cas, nous, on est très content d'avoir l'équipe. Et je sais que l'équipe n'a jamais douté d'Antoine.
L'équipe n'a jamais douté d'Antoine, mais quand t'as une pépite comme ça, c'est sûr que tu peux quand même te reposer sur lui, même
si. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il revient. Il y a un ruck à 2 mètres de la ligne où face à 3 franciliens, il arrive à conserver le ballon et derrière il y a essai. Enfin, ça me rappelle un peu. Alors c'est pas pareil, mais la situation défensive face à Adam Hansen au tour de la destination il y a quelques années, défensivement, il a été aussi très juste hier. Enfin, en fait, il y a aucune fausse note dans son jeu, je trouve. C'est ça qui a transpiré et l'ovation qui lui a été rendu par le Vélodrome.
Il est reconnu. Après, il y a beaucoup de Toulousains dans le Vélodrome.
Mais il y avait peu de supporters du Racing quand même.
Il y en avait peu. On les a entendus quand même. Ouais. Malgré le score. Ouais. On n'a pas le plus grand nombre de supporters. Peut-être qu'on a les meilleurs. Tu vois.
T'étais en bleu et blanc.
Non, moi j'étais en blanc.
T'étais en blanc.
J'étais en blanc. Ouais. Mais pour revenir en tout cas sur l'intervention de Lebel, en fait, il protège. On sent que le club protège son joueur, notamment Antoine Dupont. Mais enfin, ça n'empêche que cette année, quand même, cette saison, il a montré quand même 2-3 failles. Alors le justificatif, est-ce que c'est parce qu'il s'est laissé porter par les affaires extrasportives? Je sais pas. Mais en tout cas, il a montré quand même qu'il avait des limites, qu'il était humain finalement.
Ouais, bien sûr,
qu'il était humain. Ça, on l'a pas inventé quand même.
Mais oui, mais là, il est redevenu inhumain hier soir.
Il a pas joué pendant 9 mois. Sur une autre planète. Il revient d'une blessure dont dit qu'il faut le double de temps pour revenir à son meilleur niveau.
À 29 ans, Romain, il a quand même connu 3 grosses blessures. Oui. Les deux genoux, plus la fracture à la face, rappelez-vous, pendant la Coupe du Monde. On l'avait fait rejouer derrière, mais enfin, il était quand même bien amoché. Il a 29 ans, il récupère peut-être un peu moins vite qu'il ne le faisait à 22, 23 ans. Hein, c'est dur de retrouver. Et puis, il y a sa vie aussi à côté du rugby, son amoureuse, les festivités en dehors du rugby. Tout ça, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et ben voilà, mais en tous les cas,
ça se voit pas. Quand il est sur le terrain, là, ça s'est pas vu hier.
Voilà. Christophe, tu sais que là, on parle d'une personnalité connue, en tout cas.
Aujourd'hui, c'est plus qu'un joueur de rugby.
Je te rappelle que les femmes de joueurs de tout sport confondu prennent de la vie aussi, hein. Ça prend de l'énergie aussi de s'occuper de ses enfants et compagnie. Le joueur de rugby n'est pas que joueur, en tout cas, le joueur de foot ou le peu importe, n'est pas que sportif.
De ce côté-là.
Donc, je veux dire, faut pas créer la normale là où c'est normal, en fait. C'est normal qu'en dehors de, il a besoin de cette énergie. Qui peut être revigorante, qui lui fait penser à autre chose.
T'as déjà monté les verres du festival, toi?
Non, j'ai jamais. Peut-être que j'irai à Cannes au mois de novembre. Non,
avec un beau costard. Les mecs, ils vont le prendre pour le videur et tout le monde est costaud. Bon, un petit mot quand même côté Racingman. Comment on a vécu ce moment et comment expliquer la supériorité toulousaine? Écoutez ce qu'en disent respectivement Patrice Collazo et Romain Taofi-Fenois.
Oh, le scénario est simple, il faut reconnaître la supériorité du stade sur la maîtrise de l'événement, sur la manière d'aborder les choses, sur la manière de poser une empreinte sur le match. Ils ont pris dès les premières minutes. On peut pas avoir de la déception quand on perd comme ça contre plus fort. Et là ce soir on n'a rien enclenché de positif.
On a été surclassés dans tous les secteurs de jeu. Quand Toulouse joue à ce niveau-là, c'est dur de rivaliser. On a goûté ce soir au très haut niveau.
Au très haut niveau, ouais, au très haut niveau, nous dit Romain Taoufi-Fenois, qui c'est pas
assez lucide hein, finalement en fait sur la prestation. Et c'est vrai que Patrice le disait, hein, c'est même moins frustrant. T'as pas de frustration finalement en sortant de ce match. T'as un sentiment un peu de gâchis parce que tu gâches un peu l'image que tu donnes à ta saison, mais de frustration sur le match non, parce que trop fort. On n'est pas au même niveau, même si je sais que t'aimes à dire qu'ils ont 25 ans d'avance, 25 titres, mais aujourd'hui c'est la réalité. Peut-être qu'un jour le Racing, je le souhaite, en tout cas avec la reconstruction de ce groupe, avec une nouvelle philosophie, on arrivera en tout cas à des matchs où on peut rivaliser.
Ouais. Est-ce qu'il faut Julien, est-ce que ça remet en cause quelque chose dans ce processus de reconstruction qui est quand même, c'est très fort ce qu'a fait Patrice Collazo au Racing. Ils sont tellement, c'était tellement des machines en face que il faut pas non plus faire de ce match une montagne. Ça fait penser un peu d'ailleurs à tu parlais hein, Christophe d'ailleurs de la finale 59-3 là entre la Toulouse et l'UBB. L'UBB s'était beaucoup servi de ce match. Est-ce que Patrice Collazo, tu penses, va se servir de ce match là dans son processus de reconstruction?
Alors première question, je suis pas à la place de Patrice. Patrice, je pense qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi et à la limite.
Non, mais il est pas là, c'est pour ça qu'on.
À la limite, je lui poserai la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux pas enlever ce qu'a fait Patrice. Il est en train de recréer une nouvelle identité au club. Je pense que on n'en est pas au même niveau. Faut arriver. C'est dur. En fait, c'est le 70 qui reste ancré. On aurait perdu une quarantaine à une dizaine. Finalement, le score était lourd.
Tu crois qu'il va rester dans les têtes, ce score là, dans les têtes des Racing Men pendant des mois et des mois?
Non. La pré-saison, on va faire. Je pense que j'imagine qu'en tout cas Patrice, la pré-saison, on va basculer sur un nouveau projet, une nouvelle saison, de nouveaux objectifs.
Qu'est-ce qui est plus dur, de perdre un match comme ça, de partir avec le cucu rouge, ou de perdre une finale à la dernière seconde avec un essai de Romain Ntamack, Romain et Julien?
Écoute, je vais te répondre. Parce que c'est la discussion qu'on a eue un peu dans la nuit. Celle où tu perds un point, où tu t'en veux toute ta carrière, celle où tu prends une branlée, ça fait mal sur le coup, mais après tu peux vite l'oublier quand même.
Ouais, alors que Romain, tu l'as pas oublié, toi.
Attends, les images de Romain Ntamack, de l'essai de Romain Ntamack, sont diffusées à chaque fois.
Que chaque
tout le
fois,
temps, tu les revois
chaque
partout.
Fois qu'on parle de ça à Wilfried, il y a une petite larme qui coule sur ses joues.
Évidemment que c'est vécu comme un traumatisme par les Rochelais, évidemment. Ouais, bien sûr. Évidemment, non, c'est beaucoup plus dur en fait, de perdre dans cette situation.
C'est le genre de défaite connue par le Stade Rochelais face à Toulouse en finale, je pense, les a plus marqués pour des années.
Et on les voyait gagner, surtout.
Elle s'effacera doucement. Comme la défaite en finale de l'UBB s'est effacé finalement assez rapidement, puisque
t'avais une main et demie sur le Brennus à l'époque. Hein.
Ouais, pardon.
Ce qui n'était pas le cas hier. Hein. Hier, je veux dire, qu'à un moment ils ont vu le Brennus leur filer devant les yeux. Ce qui n'est pas le cas des Rochelais.
Le scénario était terrible. Hein. Il était terrible pour les Rochelais.
Ouais. Tiens, on va pour terminer écouter Patrice Collazo à nouveau, justement sur la marge de progression de son équipe, de son club, pour espérer rivaliser un jour avec les dieux du Stade Toulousain.
Chaque club est différent, chaque contexte de club est différent. Après, nous, on va l'analyser, on a toujours su s'améliorer, on va rester nous-mêmes. Ce qui est sûr, c'est que la saison prochaine, il faudra plus. Il n'y avait que 4 équipes sur le week-end de représenter. Dans ces 4 équipes, il y a le Racing. Il ne faut pas non plus tout jeter. On connaissait nos lacunes, certains points faibles qu'on pouvait avoir. Ce soir, c'est une supériorité collective qu'on a eu en face. On verra la saison prochaine quand on reprendra. Je suis convaincu que ce groupe a encore envie de progresser, a surtout une marge énorme de progression.
Une énorme marge de progression.
Il a tout dit. Tu me posais les questions avant, mais finalement, il t'avait déjà répondu. Mmh. Et ça, c'est la grandeur de Patrice, c'est qu'il est déjà en train de basculer sur la saison d'après, la saison prochaine. J'apprends à le découvrir. Tu sais, je suis un jeune entraîneur et je regarde un peu ce qui se passe. Et c'est vrai que j'aime bien, en tout cas, l'état d'esprit qu'il met dans l'équipe. Donc, du coup, j'observe en tout cas ce qui se passe aujourd'hui,
la confrérie des piliers quand on.
ça doit être ça aussi.
Pilier un jour, pilier toujours, quoi. Hein. C'est un peu ça, non?
Ça doit être ça.
Bon, voilà donc pour ce Toulouse Racing. Dans un instant, on va s'intéresser à l'autre demi-finale, celle que nous vivrons ce soir à partir de 21h05 sur RMC. Je serai encore là avec Julien Landry et Romain Asselin sera pas loin, mais pour faire les interviews parce que c'est comme ça, c'est son job avant de partir sur le Tour de France. Merci mon petit Romain.
Avec plaisir mon Christophe.
Tu rejoins Pierre à la plage maintenant, c'est ça?
Ah, une petite sieste s'impose là. On va reposer le mécanisme avant de repartir un match qui s'annonce frontal. Je vais rentrer sur la pelouse parce que je vais me faire désosser.
On va regarder ça
avec beaucoup d'attention depuis les tribunes. On a très envie, comme disait Julien Landry depuis le début du week-end, qu'il y ait des en avant ce soir pour voir les deux packs en opposition, les deux meilleures mêlées du championnat.
On a hâte qu'il y ait un en avant genre dans la deuxième minute du match et la première mêlée. Et là, ça va faire boum. Hein, ça va être chaud. On en parle dans un instant avec Julien.
Choque-tu les Rico.
Et avec Julien Landry qui va nous rejoindre. Il adore lui aussi quand ça choque, quand les têtes se choquent, quand les corps s'affrontent. Allez, il est 14h29 et vous êtes à l'écoute d'RMC. C'est l'Intégral Sport. Et on parle rugby jusqu'à 15h.
RMC, Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
14h33 sur RMC, l'Intégral Sport. On parle rugby jusqu'à 15h. Julien Brugnot est à mes côtés, ancien pilier du Racing notamment, et qui rentre de Marseille où il a assisté à la Bérésina du Racing, largement battue hier par Toulouse lors de la première demi-finale du Top 14. La deuxième demi-finale, bien, on va en parler dans un instant parce qu'elle aura lieu ce soir, même heure, 21h05 au Stade Vélodrome. Il faisait chaud hier à Marseille, mais...
Le Mistral rend les choses plus agréables.
Ah, oui, ouais. C'est ça. Il manque un peu le Mistral.
Il fait beaucoup plus chaud ici à Paris.
Julien, il a du Mistral, il a la Tramontane, Julien André, il a tous les vents de la terre, évidemment, pour lui permettre de résister à la chaleur. Il nous accompagne, il rentre de la plage où il a laissé Pierre Thévenet. Mais là, il est avec nous pour évoquer donc ce match ce soir entre son club, le club qu'il pousse, derrière lequel il pousse toute l'année, le Montpellier Hero Rugby, qui va donc affronter le Stade Français ce soir. Choc de Titans, ça va faire mal, ça va faire du bruit, c'est cet affrontement, hein, mon Julien.
Salut Christophe, salut Julien. On l'espère, en tout cas, on espère voir un peu plus de suspense qu'hier soir. Parce que honnêtement, personne n'attendait. On attendait aussi un choc que le Racing rivalise un peu avec Toulouse hier. On espère être moins déçus ce soir, très honnêtement.
Ouais.
Parce que j'ai vu beaucoup de supporters partir à la mi-temps hier. Hein,
je dois rebondir sur cette phrase horrible. Hein. J'ai déjà tout dans le dos et en plus, il faut que je réponde à ça. C'est moche de commencer comme ça, en tout cas. On va parler du choc frontal, hein, s'il te plaît.
Non, mais, tu m'as vu.
On espère qu'il y aura un choc, vraiment.
Non, mais il y aura un choc, t'as deux équipes qui ont un style de jeu qui est à peu près équivalent, qui s'abusent beaucoup sur leurs conquêtes et en tout cas sur leurs avants. Ils aiment ça, ils y retournent avec plaisir, tu le vois, hein, sur tout le match de saison. Je pense que tu vas l'avoir, ton choc. Je
dis pas qu'ils vont faire des en avant. Dans lesquels t'aurais bien aimé jouer, enfin, le pack du Stade Français, t'aurais pas aimé jouer là-dedans, là, quand même.
Non, peut-être pas en rose, mais en tout cas, sous les ordres de Didier Bess avec Montpellier, en plus, toi, avec un ami qui entraîne le manager, j'ai perdu son nom pourtant, c'est mon ami Joël Codillo. Ouais, j'aurais bien aimé, ouais. C'est vrai que je sais que Didier Bess et Joanne, ils apportent une grande importance, notamment à la conquête. Mais c'est quelque chose d'identitaire. Montpellier a toujours bien aimé avoir des avants costauds, dominateurs et appuyer son jeu sur du frontal.
Mais c'est vrai, Julien, que les deux équipes, là, hier, on pensait assister à une opposition de style. Bon, il n'y a pas eu d'opposition de style puisqu'il y a eu une équipe qui a complètement bouffé l'autre. Mais là, ce soir, c'est pas vraiment une opposition de style entre Montpellier et le Stade Français. C'est deux équipes qui s'appuient à peu près sur les mêmes points forts. En gros, hein. Julien Landry, il est reparti à la plage, salopard. Il est reparti à la plage. Bon,
la petite différence, oui, effectivement, c'est que je pense que le Stade Français en fait joue un peu avec de l'insouciance. En fait, l'année dernière, ils étaient un peu dans le même cas que le Racing, c'est-à-dire mal classé à la fin de la saison. Et ils sont repartis notamment à la commande de Paul Gustave, en fait, sur un jeu qu'ils maîtrisent, un jeu qu'ils ont maîtrisé ces cinq dernières années, qui les a amenés en tout cas à performer. Et c'est vrai qu'une grosse défense, un gros pack, et en tout cas essayer d'aller gérer un maximum de pénalités. C'est pas le meilleur pack en soi sur les pénalités, il me semble. C'est plus Montpellier qui a ce titre. Mais en tout cas, ils aiment affronter, ils aiment faire mal, ils aiment en tout cas déstabiliser leurs adversaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir comment ça va se passer. Ils ont notamment en première ligne avec Paul Alolimi, un droitier très expérimenté. Il leur manque quand même leur droitier remplaçant habituel, Melikidze, qui est blessé. C'est le frère Mossessé qui va prendre le relais. Mais c'est vrai qu'après, pour le reste, c'est quand même très costaud. Ils ont une équipe assez homogène. On voit Briat, Tanga en 8. Tanga qui est un 8, qui est quand même costaud, qui porte beaucoup, qui frappe fort. Donc du coup, c'est vrai que face à cette équipe de Montpellier, qui pour le coup, elle, a deux premières lignes entières dominantes, qui a dominé toute la saison, même avec les changements. Donc j'ai hâte de voir. En fait, c'est vrai que tout le monde les attend sur la mêlée. Ça se trouve, ça va faire un flop. J'espère pas quand même pour les amoureux de la mêlée.
Ah oui.
Mais normalement, s'ils sont correctement arbitrés, parce que dernièrement j'ai vu que vos confrères de Canal+ avaient jugé la mêlée de Erdocho notamment, en tout cas pénalisable. Donc j'espère qu'en fait de vrais spécialistes regarderont en tout cas le match.
À l'époque, Slimani était un peu.
Non, Slimani avait ce don en tout cas de se servir et d'appuyer au bon moment, en tout cas sans trop se faire montrer. À un moment, le subterfuge a été identifié. identifié et sanctionné par les arbitres. Non, Erdocho, pour revenir sur ce match contre Pau notamment, ils ont une mêlée dominante.
De Julien Landry, hein.
C'est vrai, mais ça m'étonne pas. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Mais pour revenir un peu, parce qu'il avait été critiqué, notamment, il a été mis un peu en branle par rapport à cette mêlée. Mais bon, c'était plus le Séguin Palois qui avait fait une erreur plutôt que la mêlée montpellierienne. Donc non. Montpellier a de gros atouts, en tout cas, sur ce match.
De gros atouts.
Didier Bess, d'ailleurs, Julien avait râlé pour tout raconter. Didier m'avait envoyé un message juste après et il a appelé Eric Bail pour dire que c'était un scandale ce qui s'était passé sur Canal Plus sur cette mêlée là
et il avait appelé d'ailleurs parle bien, ont un joli français, ont des jolis mots dans leur bouche mais ils connaissent rien.
Exactement. Donc, et il avait appelé après d'ailleurs Mathieu Reynal pour lui expliquer, parce que tu sais toi entraîneur de la mêlée que c'est aussi un gros travail de lobbying avec des arbitres sur les positions à tenir et qu'il voulait pas que les arbitres fassent un focus sur la poussée des gauchers montpellierains.
C'est ça le risque.
Donc il y a eu un gros travail de lobbying de la part de Didier, déjà pour dire que effectivement Erdocho n'avait pas triché sur cette fameuse mêlée et que les positions montpelliéraines étaient des bonnes positions aussi et qu'il fallait pas que la mêlée montpelliéraine soit plus sanctionné que ce qu'il pouvait l'être d'habitude.
Bon, vous avez compris que Julien Brugnot ne sera jamais consultant sur Canal+. Là, on vient de comprendre ça il y a quelques instants. Alors oui, je te posais la question, mais on a été coupé. Oui. Montpellier et le Stade Français, Julien, c'est quand même c'est pas copier-coller, mais c'est vraiment deux équipes qui se basent sur les mêmes atouts quelque part.
Oui, c'est deux équipes qui sont assez proches en tout cas dans ce qu'elles veulent mettre en place sur le rugby, à savoir d'abord mais une grosse conquête. Le Stade Français, c'est la meilleure mêlée de notre championnat, celle qui récolte le plus de pénalités sur mêlée, celle qui vole le plus de ballons sur introduction adverse, et Montpellier est le deuxième dans ce secteur-là. Donc vous avez déjà compris l'intérêt que ces équipes-là ont sur la mêlée. C'est des équipes qui sont aussi très fortes en touche. C'est quasiment les meilleurs alignements de notre top 14. Et c'est des équipes qui défendent très fort avec à chaque fois des entraîneurs spécifiques sur ces postes. Julien en parlait tout à l'heure, Didier Bess pour la mêlée, Perry Freshwater à Montpellier, Geoffrey Doumerou pour la défense côté MHR, Rory Cocotte aux côtés du Stade Français. Donc il y a vraiment des focus qui sont très forts sur des secteurs très spécifiques. Après, Montpellier peut-être un peu plus dense, un peu plus physique devant, le Stade Français un peu plus peut-être de talent derrière. Voilà les quelques nuances qu'on peut trouver entre les deux formations. Mais c'est deux équipes qui se sont affrontées cette saison. Montpellier a perdu lourdement à l'aller du côté du Stade Français avec un bonus offensif pour Paris. C'est la seule équipe qui a mis un bonus offensif au Stade à Montpellier cette saison. Et Montpellier avait étrié le Stade Français au match retour en mettant également le bonus offensif. Donc c'est un match très incertain ce soir, avec des forces évidemment qui vont se rencontrer, s'opposer, des forces semblables et avec peut-être des petites stratégies mises en place par chaque équipe pour essayer, comme disait Johan Codulo hier, de percer le coffre-fort ou parisien ou montpellierain.
Est-ce que vous avez un favori? Moi, c'est différent. Alors, si on prend l'exemple d'hier, on se dit que la semaine de repos vécue par les équipes qualifiées directement pour les demi-finales peut être capitale. Hein, on l'a vu hier avec Toulouse, mais bon, c'était pas uniquement les raisons de la boucherie. Est-ce que vous pensez que ce soir, ça peut aussi avoir son influence, sachant que le Stade Français quand même a pu faire tourner en fin de match.
C'est deux configurations différentes. Quand même. On se rappelle, le Racing a bataillé jusqu'au dernier moment pour se qualifier. Ouais. En tout cas, le Stade Français. La Rochelle a subi un peu la supériorité en tout cas du jour, donc ils ont vite fait tourner, ils ont gagné 45-5 de mémoire.
Ouais, c'est ça.
Ils ont fait tourner l'énergie, ils ont pas su se dépenser mentalement en tout cas. Je pense qu'ils ont emmagasiné beaucoup de confiance, en tout cas le Stade Français dans leur jeu, le jeu qu'ils vont adopter sur les phases finales, c'est un jeu qui est différent de la saison régulière. Et je pense qu'à l'inverse, moi je vois l'euphorie du Stade Français fait que je les vois plus favoris en tout cas que Montpellier.
D'accord. Ouais. Montpellier, attends, il y a 15 jours quand Montpellier a écrasé tout le monde en Challenge Cup, tout le monde disait de Montpellier, tu t'en rappelles, Julien, c'est le client numéro 1, c'est le client le plus sérieux, c'est le seul qui peut inquiéter le
Stade Français. Alors, en toute objectivité, je reste persuadé que Montpellier, aujourd'hui, Julien parlait de dynamique, la dynamique des Montpelliérains, ils sont portés depuis le début du mois de décembre sur une série incroyable de 22 victoires sur les 25 dernières rencontres. Les trois défaites, c'est un bonus défensif à Pau où ils peuvent s'imposer, un bonus défensif à Toulon où ils peuvent s'imposer et une défaite à Toulouse avec l'équipe bis de Montpellier où s'ils y vont avec un peu d'ambition, ils peuvent faire quelque chose. Ils sont sur 10 victoires consécutives. Donc je pense que les Montpelliérains sont portés par une dynamique. Et je sais pas, moi quand j'écoutais Hugo Mola hier soir, j'ai l'impression quand même que cette fraîcheur physique à cette époque de la saison, Julien le sait, mais ce top 14, il est devenu...
C'est la guerre. Aujourd'hui, c'est la guerre 26 journées. Tu tapes très fort tout le temps. Et même si oui, contre La Rochelle, ils ont pu faire tourner, il y a quand même une semaine de préparation intense où tu perds un peu d'influx, un peu d'influx nerveux. Tu perds un peu d'énergie quand les Montpellierains ont eu 4 jours de repos, ont repris le jeudi. Je pense que la fraîcheur physique peut faire la différence dans ce moment-là. Alors, ça sera pas suffisant, mais je pense que Montpellier, pour moi, c'est du 52-48. De par le petit ascendant de fraîcheur physique que les Montpellierains
ont. J'ai bien écouté ton laïus, mais combien de matchs de Coupe d'Europe ont fait le Stade français cette année? Ils se sont reposés à cette époque-là. Donc,
à
cette
époque-là, à la fin de la saison.
Alors que les Montpellierains, ils ont été jusqu'au bout quand même.
Ouais. Mais ils avaient perdu ce match de huitième de finale de manière très surprenante d'ailleurs.
Tiens, une petite question comme ça sur finalement la proximité entre la fin des matchs de barrage. Donc, on rappelle que le match de barrage c'était le Stade français, c'était dimanche soir.
Le Stade français dimanche soir contre La Rochelle. Si.
Dimanche soir contre
La Rochelle à 21h et on joue aujourd'hui 6 jours après.
Plus tard. Et que le Racing avait joué pareil, a eu 6 jours. 6 jours, c'est même pas une semaine après des matchs d'une telle intensité. Est-ce qu'il n'y a pas matière à réformer un peu là-dedans quand même, à permettre d'avoir un ou deux jours supplémentaires? Je sais pas, tu les fais jouer le vendredi soir les barrages et tu leur laisses jusqu'au samedi et dimanche d'après quoi. Je sais pas, c'est quand même assez déséquilibré en termes de récupération. Alors tu me diras que Toulouse et Montpellier ont acquis le droit de se reposer une semaine supplémentaire grâce à leur première et deuxième place. Ok, alors, mais derrière, t'as des barrages ou t'as des demi-finales complètement déséquilibrées. Donc est-ce que ça pourrait pas
être une piste de réflexion? Oui, mais Christophe, après, tu vois, on s'est souvent plaint cette saison que des équipes pouvaient balancer des matchs, faire certaines impasses sur certaines journées. Montpellier, ils sont sur le pont depuis le début du mois de décembre. Ils ont été arrachés leur deuxième place à Lyon sans faire tourner, en prenant le risque d'avoir une semaine de récup en moins et contre le barrage. Toulouse, ils sont qualifiés depuis 2 mois parce que ils ont enchaîné les performances. C'est aussi le prime à la performance sur les 26 journées de championnat. Si tu enlèves le petit avantage que tu peux avoir d'avoir fini premier ou deuxième, tu vas te retrouver avec des équipes qui vont faire plus d'impasses dans la saison en disant premier, deuxième, troisième ou quatrième, ça sert à rien. Balançons des matchs et reposons toutes les équipes. C'est la prime aussi à la performance sur une saison.
Regarde ce qui s'est passé également en Champions Cup. Si tu ne retrouves pas l'UBB qui est quand même championne d'Europe dans la compétition, c'est parce que eux, ils n'ont pas non plus fait d'impasse et qu'ils ont voulu aller gagner les matchs, notamment en Afrique du Sud, pour essayer d'avoir.
L'UBB, leur gros problème, c'est le début de saison où ils ont eu beaucoup de blessés, Moefana, Lucu. Oui, mais ça veut dire qu'avant le début de la Coupe d'Europe, Christophe, le débours de points de l'UBB, il tient du début de saison raté par l'UBB où ils ont enchaîné des performances qui n'étaient pas au niveau.
Christophe,
explique-moi pourquoi Toulouse a pu être qualifié quasiment dès le mois d'avril. Ce que Bordeaux n'a pas su faire, ils ont eu les mêmes problématiques.
Il y a une différence.
Toulouse, ils n'ont pas fait tourner non plus.
Le scénario, il est simple. Si tu veux être sur les deux tableaux, comme il a très bien expliqué, il faut que déjà tu fasses beaucoup tourner ton effectif et que tu engranges un maximum de points pour que quand tu arrives sur les matchs importants, les matchs qui vont compter, en fait, tu mettes ta grosse équipe sur les matchs qui comptent et tu fasses tourner, parce que du coup, tu vas aller récupérer quelques points. Nous, on l'a connu en 2016, notamment, on perd en finale de Coupe d'Europe, mais on avait une équipe qui a été peu blessée et beaucoup de jeunes ont été intéressés. Toulouse aujourd'hui, il l'a dit, ils ont engrangé le max de points. On se rappelle de la fin de saison où ils enchaînaient pas des victoires. Bordeaux, ils ont payé leur début de saison.
Ouais. Très bien. Il est 14h46. On continue ce débat fort intéressant, évidemment. Dans quelques instants, on va s'intéresser quand même au match de ce soir avec ces deux équipes qui jouent un peu au yo-yo quand même, dans le top 14. Montpellier qui était à la ramasse l'année dernière, le Stade français qui était pas mieux. Il y a 2 ans, ils étaient au sommet ou presque tous les deux. Enfin, c'était il y a 3 ans pour Montpellier avec le titre de champion. C'est drôle de parcours quand même. C'est pas le parcours linéaire du Stade toulousain.
C'est ce qui nous plaît, ça fait écrire
Sûr, ça nous fait raconter des histoires. Avec le Stade toulousain, on sait plus quoi dire. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessier.
14h49 sur RMC, on est avec Julien Brugnot et avec Julien Landry pour évoquer la deuxième demi-finale du top 14 qui aura lieu ce soir à 21h05 au Stade Vélodrome entre le Montpellier Hérault Rugby et le Stade Français. Opposition non pas de style mais opposition frontale entre deux packs, deux défenses
qui
de fer et quelques trois quarts aux jambes quand même efficace, pourrait-on dire, aux grandes jambes. Je pense à Léo Barré, par exemple. Hein, Léo Barré, qui est l'un des arrières du 15 de France, même s'il n'avait pas été appelé ces derniers temps. Eh bien, il fait une belle fin de saison. Tiens, on va l'écouter, justement. Léo Barré évoquait justement la saison complètement différente du Stade français il y a deux ans. Ils étaient là, ils étaient en demi-finale. L'année dernière, ils n'étaient pas. Et cette année, ils sont à nouveau en demi-finale. Cette équipe fait du yo-yo. Il nous explique pourquoi, Léo Barré.
C'est deux saisons qui sont complètement différentes. Il y a deux ans, on était sur un plan de jeu avec des profils de joueurs complètement différents de ceux d'aujourd'hui. Donc, on peut pas les comparer. Elle était très belle cette année-là, il y a deux ans. Cette année, effectivement, on arrive à proposer peut-être un peu plus de jeu. Il y a cet aspect confiance. Forcément, quand on gagne des matchs importants et qu'on arrive à produire un jeu assez intéressant, bah forcément prendre la confiance. Et pour la suite du championnat, c'est ce qui nous a permis, je pense aussi, d'aller chercher quelques points de bonus offensifs ou défensifs. Ça aussi, ça nous a permis d'être dans une bonne position à la fin de l'année.
Et oui, parce que le Stade français, ce n'est pas qu'une défense, ce n'est pas qu'un pack de fer, c'est aussi des jambes de feu. Hein. On en a vu quand même quelques-uns, Julien. Et c'est un peu la même chose du côté de Montpellier. Hein. Il n'y a pas que les gros qui jouent à Montpellier, loin de là.
Non, mais déjà, pour finir sur le Stade français, c'est Léo Barré, 12 essais, Ward, 11 essais, Dakouvaka, 9 essais, ouais. Noné, 9 essais. Ils ont quand même 4 des 20 meilleurs marqueurs de notre championnat dans les 20 c'est premiers. Alors que le meilleur marqueur d'essais montpellierain, c'est Christopher Tolofua, avec 9 essais, le talonneur. Non, mais ça prouve aussi, finalement, ouais. Les philosophies des deux formations, si Montpellier a aujourd'hui la quatrième attaque.
Un peu différente, quand même.
Oui, c'est pas tout à fait voilà, là. Montpellier a aujourd'hui la quatrième attaque de notre championnat. Mais c'est ce que j'étais. Alors, le Stade français a peut-être un peu plus de talent derrière, un peu plus d'individualité, avec voilà Dakouvaka, Néné, Ward, Marchante, même qu'on pourrait ajouter Léo Barré. Mais les Montpellierains, depuis le début du mois de décembre, ils jouent un peu plus au ballon. Ils ont décidé de libérer un petit peu la voilure offensivement avec Benoît Payoc qui chapeaute tout ça. Et on voit des Montpellierains un peu plus offensifs avec notamment Tom Banks à l'arrière, ce qui va nous offrir un beau duel avec Léo Barré. La paire française de Vincent Cadeau au centre. Il y a aussi des individualités à Montpellier, mais voilà, Julien le sait très bien, le rugby, et particulièrement ce soir, se gagne devant. Et je pense que l'équipe qui aura pris l'ascendant ce soir devant aura pris peut-être un ascendant important pour s'imposer. Et Julien en parlait tout à l'heure, je l'entendais, je pense que la blessure de Milik Kidze peut être prépondérante dans ce match-là, parce que les Montpellierains ont deux premières lignes de même niveau quasiment. Je parlais avec Didier Sanchez hier, le spécialiste français de la mêlée, qui disait que tu remplaçais une Ferrari par une Ferrari. Je pense que le Stade français ce soir, malheureusement pour eux, avec la blessure de Milik Kidze, l'absence d'Abramashvili à gauche, ils sont un peu moins forts dans les rotations, et que au moment du coaching à la 50e, la puissance montpellierenne pourrait faire la différence.
Ouais, effectivement, c'est vrai que tu parlais de l'absence de Milik Kidze après Moussessé à l'OM Lille, formé à droite. On l'a vu beaucoup dans le championnat, oui. À gauche, mais formé à droite, donc il a quand même, puis il va certainement être chapeauté par son frère Paulo l'OM Lille. Écoute, je sais pas si ça va se jouer là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que faut pas être un devin faut pas être un génie, en tout cas, pour imaginer que les deux stratégies vont devoir en découdre pendant 20 minutes en s'affrontant, parce que très clairement, si un pack, en tout cas, si une équipe prend l'ascendant devant, automatiquement, tu vas voir les gazelles un peu courir.
Bon, et Julien, tu le disais, je crois, tout à l'heure, tu as hâte qu'on commette un en avant dans les deux premières minutes pour voir une première mêlée, c'est ça?
Il faudrait mettre le micro-canal aujourd'hui sur un avant, quand même, pour entendre les chocs.
Ah ouais, ça serait intéressant, ça.
Tu entends la vertèbre. J'ai posé la question à Johan Codulo hier en lui disant, c'est la première fois de l'histoire d'une demi-finale qu'on atteint un en avant quasiment. C'est vrai, voire même un coup d'envoi directement en touche. Un coup d'envoi en touche ce soir, mêlé d'entrée.
Ça, non, mais ça te plaît, ça, ce rugby à l'ancienne.
Pour ceux qui adorent rugby léché, le rugby de passe et tout ça, je pense qu'ils vont quand même.
Avec les coupées de recentrage, avec tes avant-milieux, là. Comme ça remet du combat. Mais oui.
Ah, ça va être le match à l'ancienne.
Mais ça démarre là. Tu peux avoir les meilleurs trois quarts du monde. Si t'as pas un avant qui avance, tes trois quarts, ils feront rien. Ballons,
déjà, et ce serait difficile.
C'est ça.
Tiens,
exactement.
Johan Codulo, justement, que tu as rencontré, le coach montpelliérain, qui nous parle de ce match qu'on attend un peu musclé, faut bien le dire.
On va essayer, Stade Français et nous, de pas soulever les piliers adverses. J'aime beaucoup cette phase-là parce que c'est un rapport de force, parce que il y a des moments qui sont importants et je trouve qu'il y a beaucoup de matchs face United qui ont été gagnés grâce à la mêlée. On le voit avec le Grand Toulon à l'époque avec Bernard. Il y a des matchs qui se gagnent grâce à ça. En tout cas, on peut aussi le perdre à cause de ce secteur-là. Donc, on s'est préparé là-dessus. On a pas changé les choses et on est à 100% pour affronter une des meilleures mêlées du championnat. On s'est préparé pour justement arriver à les dominer parce que c'est ce qu'on veut faire chaque week-end, même si des fois on n'y arrive pas. C'est en tout cas notre leitmotiv tous les samedis.
Le message là, est passé aux arbitres, en tout cas.
Les arbitres vont devoir surveiller de près les mêlées quand même, hein, parce que ça risque de s'écrouler au bout d'un moment avec la puissance qui va être posé dans ses mêlées. Enfin, ça va être
quoi, c'est un préjugé. C'est un pourquoi ça
serait pas envie d'aller jouer ce match, toi?
Si, j'aurais aimé. J'aurais préféré Julien. Celui d'aujourd'hui que celui d'hier, en tout cas.
Oui, surtout avec le maillot du Racing. Ouais, ça,
non, mais ce qui est bien, c'est que dans cette nouvelle ère où en fait on développe plus des joueurs de rugby que des spécialistes au poste, t'as quand même une tripotée de joueurs qui aiment ça et qui cherchent pas forcément à s'effondrer, à s'effacer. Ils cherchent vraiment à accepter le défi physique. C'est pour ça qu'il est aussi excitant, ce duel.
Ouais, on va se régaler, on l'espère en tous les cas. Enfin, ça va être un match un peu à l'ancienne, a priori, hein. Mais voilà, c'est aussi ça le rugby. Et moi,
après, attention, hein, Christophe, hein, on peut être déçu. S'attendait d'un Stade Français la semaine dernière, dans le défi frontal avec les Rochelais. C'est le match où ils ont fait le plus de passes de la saison en top 14. C'est le match où ils ont fait le plus d'offload de la saison en top 14. On peut aussi avoir, ce soir, une stratégie mise en place par Joan Codulo ou par Paul Gustard de se dire, ok, ça peut taper fort devant, mais on peut aussi essayer d'éviter le combat, de partir sur les extérieurs, de tenter de faire vivre le ballon.
La semaine dernière, il n'y avait pas d'opposition aussi. Les mêlées,
c'est vrai, je suis d'accord. Mais on peut aussi avoir des stratégies, Julien, où les équipes se disent, on peut aussi essayer d'éviter la. Bon, ces deux équipes qui ont envie de ça, mais on peut aussi être peut-être surpris ce soir. Ouais. On l'espère pas.
Vraiment. Nous verrons cela.
On veut démêler.
21h05 pour le coup d'envoi de ce Montpellier Stade Français pour savoir qui des deux, osera aller affronter le Stade Toulousain la semaine prochaine en finale. Et ça, ce sera encore une autre paire de manches. Merci Julien. On te retrouve tout à l'heure aux commentaires. Denis Charvet sera peut-être, j'espère, rentré de sa chasse aux oursins, non? J'espère.
J'espère. On n'a pas de nouvelles.
Pas fait bouffer par un requin. J'ai vu qu'il y avait des requins blancs en Méditerranée. Il manquerait plus qu'il se fasse croquer, notre Denis. Bon, à tout à l'heure, Julien. Monsieur Bruno, merci beaucoup.
Merci à vous, en tout cas.
Allez mettre un peu de talc sur les fesses.
C'est marrant, jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout, tu m'en auras parlé. Je vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne demi-finale.
Merci Julien, merci, c'est un plaisir d'être avec toi. Il est 14h57, les infos de 15h arrivent derrière. Et puis après, on va parler de foot, on va s'intéresser à l'équipe de France, on va s'intéresser également au match du jour et aux matchs qui sont déroulés la nuit dernière avec Souleymane Diawara qui va me rejoindre dans ce studio. À tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Christophe Cessieux.
15h04, vous êtes sur RMC, c'est l'Intégral Sport. Après avoir évoqué l'actualité rugby et ses demi-finales qu'on vivra, et notamment la deuxième ce soir à partir de 21h05, on va maintenant rentrer dans notre Coupe du Monde, comme tous les samedis, comme tous les dimanches. L'après-midi avance, les États-Unis, le Canada et le Mexique se réveillent petit à petit et les matchs, ne vont pas tarder à commencer. Je crois que le premier de la journée sera un peu plus tard tout de même, mais on va quand même en parler de ces matchs et on va revenir aussi sur ceux qui se sont déroulés la nuit dernière et puis évoquer l'équipe de France. Pour cela, j'ai fait appel aux lumières de Souli Diawara qui est à mes côtés. Comment ça va, Souleymane?
Salut tout le monde, très très bien, très très bien. J'ai passé une excellente nuit à me regardant les matchs, je me suis régalé.
Alors oui, comment tu gères tout ça là? Le décalage horaire et tout, ouais, tu travailles à midi et tu t'es mis à l'heure américaine.
J'essaie de me mettre à l'heure américaine. Bon, je vais pas vous mentir, c'est les matchs de 3h du matin, c'est quand même difficile. Mais j'essaie de regarder les résumés le matin quand je me lève.
D'accord. Donc dès le réveil.
Dès le réveil, on se met en mode foot.
En mode foot sur les résumés quoi, qu'il faut une dizaine de
ouais,
minutes.
Ouais, dizaine de minutes en général.
Ouais, ça te donne une idée plus générale.
Exactement, ouais. Parce que j'ai pas.
Non mais c'est autrement, c'est pas possible.
De regarder tous les matchs 3 heures, 5 heures, ouais. C'est très difficile.
T'as plus de vie et c'est impossible. On a besoin que tu tiennes jusqu'à la fin de la.
Et on a les enfants donc. C'est difficile.
Ah ben oui parce que eux, ils s'en fichent le matin à 7 heures, ils sont debout hein. Surtout qu'il faut certains encore les amener à l'école. C'est pas encore tout à fait les vacances. Très bien. Fabrice Hawkins, lui, est aux États-Unis, donc pas de problème de décalage horaire pour lui. Il a déjà bien intégré le jet lag depuis qu'il est arrivé auprès de l'équipe de France. Salut Fabrice, comment ça va ?
Salut Christophe, salut Soulé. Ouais, effectivement, salut. On a eu le temps là de digérer ce décalage horaire qui est pas évident hein, dans ce sens-là en plus. Ouais. Mais tout va bien, ça y est, on est à l'heure américaine, heureusement d'ailleurs.
Ouais, l'heure américaine, la température américaine. Je crois que de toute façon, si t'étais resté en France, t'aurais pas été plus gâté parce que c'est la canicule ici. Quel est le temps sur la côte est américaine ? Ça va ?
Ouais, une trentaine de degrés, c'est plus le taux d'humidité parfois qui est un petit peu embêtant parce que on flirte avec les 60% d'humidité, donc de vapeur d'eau dans l'air et ça se ressent. Mais franchement, par rapport à ce qui était annoncé, notamment pour le premier match de l'équipe de France mardi à New York, on nous annonçait peut-être entre 30 et 40 degrés, ça allait, on était plus entre 25 et 30. On va voir pour le deuxième match à Philadelphie lundi, mais pour l'instant ça va, c'est des grosses chaleurs, mais ça va. Et en plus ils vont jouer à 17h, donc ça devrait aller encore mieux pour la chaleur concernant les Bleus.
Voilà, 17h heure américaine, 23h heure de Paris, hein, évidemment, pour ce match qui aura lieu lundi soir. Exactement. Entre la France et l'Irak. Donc l'équipe de France qui a réintégré son hôtel. Vous êtes toujours à Boston. Le départ pour Philadelphie, c'est quand, Fabrice ? C'est aujourd'hui ou demain ?
C'est dimanche. Non, c'est dimanche. D'accord. On pensait qu'ils pouvaient partir aujourd'hui. Nous, on va se rendre à Philadelphie, effectivement, aujourd'hui. Les Bleus vont arriver demain. La journée, aujourd'hui, ils vont faire une conférence de presse à 15h30, heure locale, 21h30 heure française. Ensuite, il y aura un entraînement à 17h, là aussi, heure locale. Il sera 23h en France. Premier quart d'heure ouvert aux journalistes, aux médias. Ensuite, le reste sera à huis clos, c'est-à-dire à l'abri des regards. Bon, vous nous connaissez, hein. On va quand même essayer de savoir ce qui s'est passé et avoir les petites billes pour vous raconter tout ce qui se passe et toutes les dernières préparations de Didier Deschamps.
T'as repéré les arbres pour passer au-dessus de la clôture, pour jeter un œil, comme le faisait Jeannot à la grande époque.
Ouais, le problème, c'est que si on donne les secrets derrière.
Tu vas te faire choper. Oui, c'est ça. Donc, on va rien dire, on va rester secret. Souli, quand t'étais joueur, t'en envoyais de temps en temps, là, qui me passait les yeux au-dessus de la rambarde.
J'ai pas le souvenir. Marseille, bon déjà à Marseille c'est très compliqué de pouvoir venir à part s'il y a une taupe dans l'administration, mais sinon Marseille, Bordeaux c'était quasi impossible de venir superviser l'entraînement.
D'accord. Bon, comme ça, pas de les secrets.
Parce que la pelouse, elle est trop loin. La commanderie, notamment, la pelouse, elle est beaucoup trop loin.
Oui, à part si vous êtes dans l'administration.
Dans les bureaux.
Voilà, ouais, exactement, de là-bas.
Parce qu'il y a des bureaux avec des vitrées qui donnent sur la pelouse.
Ça, et en parlant de ça, même, je pense que, je sais pas si c'est cette saison où Mehdi Benassia avait voulu cacher aussi. Mettre un grand filet pour éviter
que les vitres
puis les locaux de voir se passer sur le terrain
pour éviter qu'il y ait des taupes qui puissent dévoiler les secrets.
Je pense qu'il aurait dû se concentrer sur d'autres trucs plutôt que ça. Bref, c'est un sentiment personnel. Alors, cette équipe de France va donc livrer son deuxième match. Ce sera lundi face à l'Irak. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements, Fabrice ? On parle d'un, deux, trois changements. Les latéraux pourraient être remis en cause. Et puis Barcola qui pourrait lui aussi trouver une place de titulaire. Qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce que vous avez vu des signes dans les entraînements de l'équipe de France?
Oui, c'est ça. C'est selon les premiers éléments qu'on a, l'entraînement justement qui était à huis clos hier a permis de révéler ce qui pourrait se passer lundi du côté de Philadelphie, c'est-à-dire trois changements par rapport à la composition d'équipe de départ de mardi dernier contre le Sénégal. A priori, Didier Deschamps pourrait donc titulariser Lucas Digne à la place de Théo Hernandez à gauche, Manu Koné en lieu et place d'Aurélien Tchouaméni au milieu, qui jouerait donc avec Adrien Rabiot, et puis à gauche, effectivement, tu en parlais, Bradley Barcola pourrait vivre sa première titularisation de Coupe du Monde à la place donc de Désiré Doué. Voilà, ce sont les trois changements attendus qu'on a pu observer en tout cas sur les différentes mises en place effectuées hier lors de l'entraînement, à confirmer donc aujourd'hui et demain avec les deux derniers entraînements.
J'avais un doute sur Saliba, je me suis dit comme il avait un petit souci au dos, est-ce que Didier Deschamps allait le faire souffler, mais bon, apparemment non.
Bah, c'est une bonne interrogation, Souler. C'est une bonne interrogation. À titre personnel, moi aussi, je pensais qu'il pouvait faire partie des joueurs qui tournent. A priori, il repartirait, en tout cas pour sécuriser sans doute la charnière, il repartirait titulaire avec Dayot Upamecano. Après, si l'équipe de France prend le lead, prend l'avantage rapidement et qu'il creuse l'écart, je pense qu'il va tourner William Saliba au moins sur ce match ou sur celui d'après contre la Norvège. Mais effectivement, je ne le vois pas jouer 3 fois 90 minutes en phase de poule.
La disposition de l'ordre des matchs fait que tu ne vas pas pouvoir avoir un match pour les coiffeurs, qui est souvent le match une fois que tu es qualifié. Là, tu joueras la Norvège en dernier match, qui sera la finale peut-être du groupe. Donc, tu es obligé d'aller prendre des points face à l'Irak. Tu ne peux pas prendre de risques sur ce match, messieurs.
Ouais. Après, ça va dépendre aussi. Ça va dépendre aussi du résultat de la Norvège contre le Sénégal.
Ah, qui jouera avant ? Qui jouera avant ?
Non, après. C'est-à-dire que si tu gagnes contre l'Irak, derrière, tu regardes tranquillement le match contre la Norvège et le Sénégal. Et si effectivement le Sénégal arrive à accrocher la Norvège ou à battre la Norvège, ce qui est tout à fait possible compte tenu de ce qu'on a vu sur la première période contre l'équipe de France, dans ce scénario-là, tu vas arriver contre la Norvège beaucoup plus tranquille le 26 mois prochain. Ouais, et peut-être que tu vas faire tourner un petit peu plus, en tout cas, parce que Didier Deschamps veut cette première place. Hein. C'est important par rapport après au déplacement, à la
logistique, de ce qui exactement. Pourrait être
le tournoi de l'équipe de France. S'ils finissent premiers, ils vont vraiment rester dans cette zone Est à jouer à Philadelphie, à New York, à Boston. Il y aura peut-être un déplacement un petit peu plus loin à Dallas en demi-finale, mais dans un premier temps, ils vont vraiment jouer à côté. Même la finale sera à New York. Donc en imaginant qu'ils vont jusqu'au bout, ils joueraient vraiment dans un périmètre qu'ils connaissent et ils seraient vraiment beaucoup plus confort.
Ouais. Et puis les adversaires qui leur seraient proposés, a priori, seraient plus dans leur corde, même si tous les adversaires sont dans les cordes de l'équipe de France. Mais il y a quand même, il vaut mieux terminer premier quand même, hein, parce que tu peux vite être en souci quand même.
Ouais, c'est sûr. Hein, on l'a vu depuis le début de cette Coupe du Monde où il y a eu beaucoup de surprises. Donc Didier Deschamps tient absolument finir premier, notamment pour la logistique, comme il l'a souvent répété, mais aussi pour éviter, entre guillemets, des adversaires un peu plus durs que ce que s'il finit deuxième, par exemple.
Ouais. On a une idée.
Si tu finis premier, tu joues contre un troisième déjà. Donc
tu joues contre un troisième. Mais en revanche, tu connais pas encore l'identité de ce troisième. Comment ça va se décider, ça? C'est en fonction du classement de ces troisièmes, le nombre de points, le nombre de buts marqués, c'est ça?
Ils vont croiser, en fait, avec un groupe, exactement. Et ils vont jouer contre le troisième de ce groupe-là. Il y a 8 troisièmes, on rappelle, hein, il y a 12 groupes. Il y a 8 troisièmes qui vont passer, ce qui est quand même assez important. Et par contre, en huitième de finale, ça va se corser tout de suite. C'est-à-dire, imaginons que l'Allemagne finisse premier de son groupe et gagne en 16e de finale. La France pourrait jouer dès les 8e de finale contre l'Allemagne, parce qu'ils vont croiser justement avec le groupe de l'Allemagne.
Bon, après, si tu veux être champion du monde, tu n'as pas le choix de jouer contre.
Ouais, enfin, ah non, mais tu as tout à fait raison, Soulé. C'est sûr que tu ne seras pas champion du monde en gagnant contre Curaçao en demi-finale. Ouais. Mais après, ce que si je veux dire par là, c'est que dès les 8e de finale, tu vas rentrer dans le dur.
Ouais. Si tu prends le Canada,
c'est plus facile, je suis pas certain, parce que si ça, je sais pas où ça va jouer, imaginons, ils jouent aussi chez eux, il y aura le 12e homme qui va rentrer aussi
en
jeu.
Le match, hein, bon. S'il termine premier, ce sera à New York.
Mais ça reste, à côté, donc ça sera
alors,
pas.
Je troisième, soit du groupe C, D, F, G, H. Maintenant, faites vos jeux. C, D, F, G, H. Donc C, c'est Écosse, Maroc, Brésil, Haïti. D, c'est États-Unis, Australie, Turquie, Paraguay. Après, nous avons donc F, c'est la Suède, le Japon, les Pays-Bas ou la Tunisie. Là, ce serait le troisième de ce groupe. Ou encore G et H. Eh bien, G et H, nous avons donc dans le groupe G la Nouvelle-Zélande, l'Iran, la Belgique et l'Égypte, et dans le groupe H, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite, le Cap-Vert et l'Espagne. Bon, voilà. Faites vos jeux, rien ne va plus. Vous en choisissez un au hasard et on verra ce que ça donnera. C'est évidemment beaucoup trop tôt pour se projeter sur les 16e de finale. Mais avant cela, donc, ce match face à l'Irak. Un mot du football irakien. Souley, est-ce que tu as regardé le premier match de l'Irak? Est-ce que as des choses à dire sur le football irakien?
J'ai pas regardé le match entier. Bon, j'ai fait comme tout le monde. Hein. Je pense que j'ai regardé les résumés de ce match-là. J'ai trouvé au début les Irakiens qui n'ont pas refusé le jeu, qui ont essayé de jouer. Je crois que c'était ils faisaient match nul à un moment jusqu'à la mi-temps, non? C'est ça, si mes souvenirs sont bons, non?
Juste un petit peu avant la pause.
Ils se sont écroulés face à une équipe norvège qui a beaucoup plus de joueurs de qualité, plus d'expérience. Et voilà, mais maintenant, l'équipe de France, ils savent très bien que Didier Deschamps, j'ai eu la chance de l'avoir comme coach. Il ne sous-estime aucune équipe et il sait que ça sera pas un match facile. Maintenant, l'équipe de France avec les joueurs, l'effectif qu'ils ont, a priori devrait passer facilement, entre guillemets, même s'il n'y a pas de match facile. Ouais. Mais voilà, il va falloir faire attention, ne pas sous-estimer cette équipe, les prendre au sérieux et faire le taf.
Ce qui est intéressant quand même à noter, c'est que Didier Deschamps, ça va dans le sens de ce que tu dis, Souley. Didier Deschamps a parlé à ses joueurs cette semaine en leur expliquant qu'il fallait pas prendre ce match à la légère, que c'était une équipe qui était bien organisée, hein, en 4-4-2 avec vraiment deux Golgothes de presque 1m90 devant, qui a su créer des problèmes à des équipes de bon niveau comme la Bolivie, qu'elle a su battre par exemple. Elle a su tenir tête à l'Espagne en match de préparation. Ils ont fait un but partout, ça reste un match de préparation, mais quand même. Et puis contre la Norvège, on parlait de cette rencontre, ils étaient menés d'un petit but, hein, à la 75e minute de jeu. Donc Deschamps a tenu à rappeler ça à ses joueurs en disant attention, ne les prenons pas à la légère, ça reste une équipe intéressante et l'objectif c'est toujours le même, c'est de finir premier, et rien de mieux justement que battre l'Irak pour se mettre en confiance et vraiment arriver face à la Norvège dans ce dernier match avec le plein de confiance.
Donc victoire impérative évidemment, et a priori victoire à la portée de cette équipe de France si elle réalise le même match qu'elle a fait en deuxième mi-temps face au Sénégal. Tu es remis de ce match, quoi. T'étais un peu partagé quand même, Souley, dans
ouais, j'étais un peu partagé, mais bon, j'étais un peu plus pour le Sénégal parce que j'ai eu la chance de pouvoir défendre le drapeau du Sénégal. Donc, voilà, j'y ai cru jusqu'à ce changement tactique où Olise est passé au milieu de terrain, numéro 9. C'est vrai que quand la France a accéléré son jeu, ça a été un peu plus compliqué pour le Sénégal. Donc voilà, c'était une victoire méritée vers les 25 minutes parce que la plupart des gens me disent à chaque fois « Oui, le Sénégal aurait mérité de gagner 2-0 à la mi-temps, mais... » La différence, c'est que les grandes équipes, je vais dire entre guillemets, eux, il leur faut pas beaucoup d'occasions pour marquer les buts. Et nous, le Sénégal, on a eu pas mal d'occasions, pas mal de situations devant le but. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser des occasions ou des situations. Et la France, en presque une demi-heure, 35 minutes, ils ont fait la différence. Et c'est ça la marque des grandes équipes.
Oui, évidemment. Le Sénégal qui a encore même de belles chances de se qualifier pour la suite. Faut battre la Norvège, quoi, en gros.
Faut battre la Norvège. Il y a vraiment pas de calcul à faire. Finale, c'est la finale parce qu'on sait très bien que si au-delà d'une victoire, ça va être très compliqué peu de chances de se qualifier. Donc ce match-là, ça sera la finale des Sénégalais. Ils n'auront pas d'autre choix, peu importe la manière, de remporter ce match-là pour pouvoir prétendre à la suite.
Tu peux toujours te qualifier
en faisant match nul, vaut mieux prendre plus de sécurité en gagnant ce match pour mieux aborder le match face à l'Irak qui sera pas facile non plus aussi. Donc voilà, il va falloir faire le maximum et mettre les ingrédients qu'il faut pour pouvoir aller chercher cette victoire face à la Norvège qui sera très très compliqué.
Mais rien n'est perdu encore malgré la défaite 3-1 du Sénégal face à l'équipe de France. Fabrice, avant de te relâcher dans la nature, je sais que tu as plein de choses à faire. Un mot quand même concernant Ousmane Dembélé, parce qu'on a vu qu'il avait été redisposé en deuxième mi-temps, repositionné à droite. Qu'est-ce qu'on dit du prochain match? Est-ce qu'a priori on se dirige vers le schéma tactique employé par Deschamps en deuxième mi-temps, c'est-à-dire Ousmane à droite et puis Olise dans l'axe derrière Mbappé avec Barcola d'un côté, donc et qui d'autre
et Kylian Mbappé devant, oui, Dembélé à droite. Totalement, Christophe, t'as raison de mettre le doigt dessus parce que ça va être un des changements tactiques, peut-être même le seul en réalité, hein, parce que on parlait de changement d'homme, ça c'est vraiment un changement tactique de Didier Deschamps qui s'est rendu compte, bah, comme tout le monde, hein, que ça a mieux fonctionné en deuxième période à partir du moment où Michael Olise a récupéré ce rôle de numéro 10, d'organisateur. C'est lui qui donne les deux ballons, le deuxième un petit peu avec plus de réussite, mais c'est de lui que viennent les deux buts de Kylian Mbappé, et ça n'a échappé à personne, surtout pas aux sélectionneurs. Donc oui, la tendance, et même par rapport à ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu de ce qui s'est passé à l'entraînement, c'est de voir Ousmane Dembélé à droite, donc dans un poste qu'il connaît, dans lequel il a beaucoup évolué en équipe de France, mais qui n'est plus son poste habituel au Paris Saint-Germain, et donc garder la French Connection entre Michael Olise et Kylian Mbappé. C'est vraiment l'association létale de cette équipe de France depuis maintenant plusieurs mois. On parlait de cette rencontre face au Sénégal, mais en réalité, ça fait un petit moment déjà qu'on a bien compris que ces deux-là s'entendaient et se trouvaient les yeux fermés.
Très bien, les réponses on les aura dans quelques heures évidemment. Le match et le coup d'envoi de cette rencontre contre l'Irak, ce sera donc lundi 23h hors de Paris, 17h du côté de Philadelphie, et on aura des infos avec Fabrice et avec tous nos autres envoyés spéciaux dans les heures qui viennent. Merci Fabrice, bonne journée à Boston, la pêche aux infos. Soulet, nous on va continuer d'évoquer cette Coupe du Monde, son actualité avec les matchs qui se sont déroulés hier soir et ceux qui arrive ce soir. 15h21, nous partons à Vincennes pour le quintet du jour. Et c'est avec Dimitri.
Eh ben non, Christophe. Non, c'est Fred. Salut Christophe, salut Souleymane, salut à tous, c'est Fred, effectivement. Et à Vincennes, c'est demain. Aujourd'hui, on est à Compiègne avec les galopeurs qui s'affrontent sur une longue distance, 2800 mètres à parcourir. Il reste encore 1500 mètres. Et c'est le numéro 13, Standing Stone, qui a l'avantage devant le numéro 3, Spanish Prince. Ensuite, on a en troisième position le numéro 7, Boroga, qui devance le numéro 12, Recoletti. Ensuite, on a également le numéro 4, Spanish Lad, qui est en 5e position de ce quintet. C'est le favori. Le numéro 1, Chess, est à peu près en 7e position de ce peloton, qui est toujours emmené par ce numéro 13, Standing Stone, devant le 3, Black Saxon. Et on a le numéro 8, Sapristi, qui se retrouve, lui, en 10e position. On a eu son entraîneur, Nicolas Collery, dans l'émission Les Courses RMC. Il était assez confiant. C'est une course, quand même, qui est assez longue, hein, 2800 mètres. Il reste maintenant 900 mètres à parcourir. Donc, les chevaux vont commencer progressivement à monter en accélération, en puissance. C'est toujours le 13 qui a l'avantage, mais il est attaqué par le numéro 3, Spanish Prince, et également le numéro 7, Oboroga, alors qu'on a également dans leur sillage le numéro 12, Recoletti, qui se trouve en 4e position, et le favori, le numéro 1, Chess, est à peu près en 7e position pour l'instant dans ce quintet plus, alors qu'il reste 600 mètres à parcourir, et ils vont bientôt sortir de ce tournant final pour aborder la dernière ligne droite de l'hippodrome de Compiègne. Toujours le 13, Standing Stone, quel avantage devant donc le numéro 3, Spanish Prince, alors que on a également le numéro 7, Beauregard, qui vient très bien, alors que le favori, l'As, Chess, commence à passer à l'offensive, alors qu'il reste 300 mètres à parcourir. Le numéro 3, Spanish Prince, a l'avantage devant le numéro 13, Standing Stone, et également le numéro 7, Beauregard, et l'As, Chess, qui vient très vite à l'extérieur. Toujours cette compétition à la classe, Chess, qui vient très vite pour peut-être s'imposer dans ce quintet plus. Il reste quelques mètres à parcourir. C'est très serré, hein, pour l'instant, avec le numéro 13 qui se relance aussi à l'intérieur avec le numéro 3. Le numéro 13 va s'imposer, Standing Stone, au passage du poteau. C'était l'animateur. Il s'est relancé dans la phase finale de ce quintet plus pour s'imposer devant, c'est très serré, hein, le numéro 3, Spanish Prince, et l'As, donc le favori, Chess, qui va quand même compléter l'arrivée de ces trois premiers de ce tiercé. Le 13 s'impose de peu, hein, devant ce numéro 3. Ensuite, on a donc l'As qui vient se classer 3e, la 4e place pour le numéro 9, Aviasor, et la 5e position pour le numéro 5, Dantchut Midon, arrivée provisoire du quintet. Donc ils annoncent quand même une photographie entre le 4 et le 13, mais préférence pour entre le 3 et le 13, pardon, mais préférence pour le numéro 13 quand même. La 3e place, ça c'est sûr, pour l'As, devant le numéro 9 dans ce quintet plus, et la 5e place pour le 5.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, il est 15h passé de 24 minutes. On continue notre tour d'horizon de la Coupe du Monde de football dans RMC, la radio officielle. Dans un instant, on revient sur les matchs de la nuit. La victoire du Brésil, 3-0 face à Haïti. La victoire du Maroc également, qui s'est imposée face à l'Écosse. Et Maroc et Brésil sont bien partis pour la qualif. On en parle avec Souleymane Diawara et avec nos envoyés spéciaux aux États-Unis. À tout de suite.
RMC, Intégral Sport.
Christophe Cécile.
15h27 sur RMC, l'Intégral Sport. On est ensemble jusqu'à 16h et on parle foot et on parle de cette Coupe du Monde qui se poursuit évidemment. Nous sommes dans le deuxième tour de cette phase de poule avec des matchs particulièrement intéressants. Ceux qui ont eu lieu la nuit dernière et ceux qui auront lieu ce soir. Ceux de ce soir, c'est quand même Pays-Bas-Suède qui se disputera tout à l'heure à 19h à Houston et Allemagne-Côte d'Ivoire à 22h à Toronto. Ça, c'est deux beaux matchs à pas louper, ça.
Ça, c'est un match, surtout Allemagne-Côte d'Ivoire, j'ai hâte aussi, mais c'est vrai que le match d'avant aussi, c'est un match très intéressant pour la suite de cette compétition.
Voilà, mais c'est vrai que c'est mieux, on préfère les confrontations un peu plus originales. Allemagne-Côte d'Ivoire, on la voit pas tous les jours.
Surtout.
Et au vu de ce qu'a fait la Côte d'Ivoire, en plus, depuis le début de cette Coupe du Monde, et même avant, puisqu'elle nous avait battus, on a hâte de voir comment la Mancha va s'en sortir, on en parlera dans quelques instants. Auparavant, on va revenir sur les deux matchs qui se sont déroulé cette nuit, enfin il y en a eu trois plus exactement, le Maroc qui s'est imposé face à l'Écosse, on en parle dans un instant, le Brésil qui a enfin marqué plein de buts, 3 buts contre Haïti, et puis le Paraguay qui s'est imposé 1-0 face à la Turquie. L'un des matchs qui nous intéressait le plus, c'est donc cette Écosse-Maroc que Nico Pelletier a suivi pour nous. Évidemment, il est bien, il est avec les supporters, il voit des choses, on lui raconte des histoires.
Et il y a de l'ambiance en plus. Les Marocains ont mis de l'ambiance. J'ai vu quelques vidéos là.
Ouais, c'est toujours la fiesta. Ça va, Nico ?
Salut Christophe, salut Soulé, salut à tous.
Salut.
Bon, c'est la fiesta.
Ça va très bien.
Ouais.
Ah ben, quand tu prends des Marocains avec des Écossais au même endroit à Boston pendant au moins, ça faisait 3 jours qu'ils étaient présents sur place parce que les Écossais ont joué leur premier match ici à Boston. Je peux te dire qu'il y a de l'ambiance, que les pubs sont bien remplis le soir à Boston et que des Écossais ont une très bonne descente.
Ils ont été champions du monde de la descente, apparemment.
Ne dis pas ça des Marocains, parce qu'il y en a qui ont plus à voir entre pays derrière.
Non, les Marocains, ils mettent de l'ambiance vraiment normalement. Mais les Écossais... c'est vraiment très impressionnant de les voir dans les bars, dans les pubs et même autour.
Ah, mais ça, apparemment, il y a eu rupture de stock dans certains bars, les barman.
Soulé, t'as raison, parce qu'il y a un gérant de bar qui nous disait qu'il écoulait 5000 pintes de bière par jour. C'était plus que la Saint-Patrick, qui est quand même aussi une institution ici du côté de Boston. Donc, c'est quand même 3-4 fois plus que la Saint-Patrick. Donc, on est quand même sur une bonne descente.
Ah ouais. Est-ce que les supporters marocains sont allés regarder sous les jupes des supporters écossais? Sous les kilts plutôt que sous les jupes.
Non. Mais c'était franchement l'Écosse, c'est toujours une passion, que ça soit au rugby ou au foot, ils mettent toujours une passion dans les villes où ils passent, et donc c'est vraiment toujours impressionnant. Mais j'ai été impressionné par les supporters marocains qui ont mis une très très bonne ambiance et qui ont vraiment joué le jeu face aux supporters écossais. Donc c'était vraiment un match entre deux équipes, et là on était vraiment, vous savez, depuis le début de la Coupe du Monde, on critique souvent les ambiances qui sont un peu moroses dans les villes où qui organisent la Coupe du Monde. Là c'était vraiment une ambiance Coupe du Monde dans la ville de Boston. Depuis 3 jours, on vit vraiment une ambiance Coupe du Monde.
Bon, mais tant mieux, c'est sympa d'avoir ce genre d'ambiance. On préfère ça aux échauffourées qu'on a vu l'autre jour entre des supporters de
l'Algérie.
L'Argentine et l'Algérie, là, c'était vraiment moche. Ben voilà, il faut que le foot arrive à faire comme le rugby et que les supporters.
Ça reste du foot, ça reste un spectacle.
Ouais, évidemment,
c'est la fête.
C'est la fête. Alors, les Marocains, qui après avoir tenu le Brésil en échec, Nico, sont donc imposés 1-0 face à l'Écosse, et du coup les voilà très bien placés pour la suite de la compétition. Les 16e de finale leur tendent les bras là, hein.
Oui, on ne dira pas que c'est une belle victoire, c'est ce que retenaient un petit peu hier soir les supporters, mais c'est une victoire très importante parce que il faut monter progressivement en forme dans, tout au long de la compétition. Donc, ce n'était pas une victoire flamboyante hier soir face à l'Écosse, mais une victoire très importante. Alors, les supporters commencent à retenir déjà qu'il n'y a eu que 2 buts inscrits en 2 matchs. Ce n'est pas beaucoup face avec cette armada offensive que possède le Maroc, mais on retiendra surtout un homme. Ismaïl Saïbari qui a signé du côté du Bayern Munich, même si ce n'est pas encore officiel. Son coach l'a quand même évoqué en conf de presse de veille de match. C'est quand même l'homme fort de ce début de compétition côté marocain. 2 buts en 2 matchs, c'est lui à chaque fois qui plante les buts de l'équipe marocaine de football. Donc ça a été très impressionnant. Hier, il a été encore excellent avec cette équipe marocaine. Et puis quand vous interrogez les supporters marocains, il y a un homme qui revient en permanence, un jeune homme même que l'on peut nommé Ayoub Bouadi, 18 ans, oui, qui a encore fait un bon match hier, moins peut-être flamboyant aussi comme son équipe que face au Brésil. Peut-être qu'il y avait aussi plus d'attention médiatique face au Brésil lors du premier match, mais il a encore fait un match très important hier. Certains joueurs étaient peut-être en forme un peu moins olympique face au Brésil, mais la victoire est essentielle pour se placer à 4 points, juste derrière le Brésil qui a inscrit 3 buts hier, donc avec une meilleure différence de but. Mais voilà, c'est très important d'avoir enchaîné après un match nul face au Brésil avec cette équipe marocaine. Et les supporters marocains que l'on a rencontrés hier étaient vraiment de cet avis.
On va les écouter.
Magnifique, vive le Maroc, on va se qualifier, on va arriver en finale, on vise la Coupe du Monde et rien d'autre.
On aurait pu faire mieux, mais 0 c'est pas suffisant, mais c'est l'essentiel.
On a raté beaucoup d'occasions et on espère qu'on fera mieux la prochaine fois, Inch'Allah.
C'était moins flamboyant que le match du Brésil.
J'ai suivi le Maroc en Coupe du Monde depuis plusieurs années et cette confrontation contre l'Écosse est ma préférée jusqu'à aujourd'hui à cause de la fraternité avec l'Écosse.
On a eu nos 3 points, c'est le plus important. Là, on doit se concentrer pour le prochain match contre l'Haïti.
La dernière fois, on a fait demi, donc faut viser la finale.
Et en tout cas, on espère battre Haïti et finir premier du groupe.
Ouais. Voilà, match Haïti, ça sera jeudi prochain. Ah, ils sont très en forme. Ça sera jeudi prochain le match face à Haïti. Très important parce que, juste une petite info comme ça, mais c'est très important de terminer premier de ce groupe parce que le deuxième de ce groupe part du côté de Monterrey au Mexique jouer son 16e de finale. Et ça, c'est de la logistique et aussi un déplacement en plus très loin de Boston et de New York où ils ont joué leur premier match. Donc ça sera très important de terminer premier de ce groupe et on reste dans la région du nord-est américain.
C'est intéressant ce qu'il dit le supporter quand il dit c'était le meilleur match auquel il a assisté parce qu'il a eu cette fraternité avec.
Et il y en a beaucoup.
Ah ben,
il y en a
beaucoup. C'est pas l'ambiance de Maroc-Sénégal en finale. Ouais, donc non, mais c'est intéressant et ouais. C'est bien de le souligner parce que. On sait qu'à chaque fois, entre les supporters de foot et les supporters de rugby, il y a une grande différence. Et là, le fait de voir les Marocains s'unir avec les supporters écossais, et je trouve ça magnifique.
Ouais. Tiens, je voulais poser une question Soulé sur concernant Bouadi parce que vous c'est un peu un parcours qui peut ressembler un peu au tien sauf que toi t'es né au Sénégal. Ouais. Mais tu as eu à choisir un moment entre le Sénégal et l'équipe de France.
Ouais, quand l'équipe jeune. De France a pris moi. Ouais. C'était bon, c'est différent parce que je sais même pas si ça existe encore. Je crois que
ça. Ah, je crois qu'il y a non, il doit y avoir d'autres.
C'est vrai qu'avant ma première convocation avec l'équipe du Sénégal, il y avait j'ai été approché par l'équipe de France à prime. Et j'avais un choix à faire. J'en avais parlé avec mon coach à l'époque, Jean-François Domergue, qui voulait absolument que j'aille avec l'équipe de France à prime. Et j'en ai parlé aussi avec ma famille. J'ai pesé le pour et le contre. Et voilà, la balance a penché sans hésiter pour le Sénégal parce que je me dis l'équipe de France à prime. Voilà, ouais, c'est un match.
Avant d'arriver à la grande équipe de France, le chemin était un peu long. Que là, on te proposait directement l'équipe nationale sénégalaise.
Et derrière, c'était quand tu as Laurent Blanc, Marcel Desailly devant toi. Tu sais qu'il n'y a presque aucune chance de jouer, même d'être être dans la pré-liste. Donc,
j'ai pas hésité, je suis parti avec l'équipe du Sénégal qui sortait d'une magnifique Coupe du Monde 2002, donc voilà, c'est un choix que j'ai pas regretté du tout.
Non, mais je pense pas qu'il faut regretter de choix, mais c'est vrai que le choix au moment où on le fait est pas toujours facile.
C'est pas facile,
Et alors Boadi, lui, Nico, je crois qu'il a fait toutes les sélections chez les jeunes. Il a fait France de moins de 16, moins de 17, moins de 18, moins de 20, équipe de France espoir, et boum, au moment où il aurait pu rentrer en équipe de France, et là il a choisi le pays de ses parents.
Et les supporters aiment bien nous le rappeler lorsqu'on les interroge sur Boadi, bien nous rappeler, vous avez perdu une pépite. Alors on arrive aussi, il faut le rappeler, on arrive aussi à une transition entre deux sélectionneurs, entre Didier Deschamps et potentiellement, normalement, Zinedine Zidane qui va arriver à la tête de la sélection de l'équipe de France.
Tu veux dire que Zizou l'aurait pu facilement convaincu de rester en France?
Peut-être, je sais pas, mais peut-être que le projet que l'on lui a présenté en France n'était peut-être pas assez convaincant lorsqu'on sait qu'il y a un nouveau sélectionneur qui arrive dans quelques mois. Donc il faudra aussi peut-être lui demander si un jour il passe en zone d'interview, on lui demandera. Mais voilà, on est aussi dans un moment où il y a une transition et on est aussi dans un rapport entre Boadi et Wabi, le sélectionneur actuel du Maroc, qui le connaît parfaitement. Il nous en a beaucoup parlé d'ailleurs en conférence de presse de veille de match. Il dit, pour vous, les médias, vous le découvrez. Alors peut-être pas les médias français, parce que nous, on suit Lille tout au long de l'année, mais le grand public, vraiment le monde entier, le découvre aujourd'hui avec cette Coupe du Monde, parce que c'est planétaire. Mais il a dit, moi je le suis et je l'ai toujours suivi durant mes années, parce que lui il a entraîné l'équipe marocaine U20, et donc il connaît parfaitement les jeunes qui pouvaient être sélectionnés dans cette équipe. Donc voilà, il a vraiment suivi toutes ces étapes pour arriver à cette équipe marocaine premium, là, l'équipe marocaine numéro 1. Donc voilà, c'est vraiment un suivi entre Wabi et Boadi qui a permis de faire aussi la différence. Et maintenant aussi, il faut se rendre compte que le Maroc attire. Est une nation qui compte, est une nation candidate potentielle à terminer dans le dernier carré, à terminer peut-être en finale de cette Coupe du Monde. Donc il faut aussi prendre en compte que c'est plus sexy aussi d'aller au Maroc que peut-être il y a quelques années.
Exactement, tu as bien raison de le signaler, et je pense qu'il a fait un très bon choix. Il ne va pas le regretter. Merci beaucoup, Nico. Le prochain adversaire du Maroc, ce sera
Haïti, jeudi prochain. Ouais. Match. Et là, c'est très important. Il faut planter des buts pour les Marocains, parce qu'il faut absolument terminer premier sous peine d'aller à Monterrey. Le match, autrement, ça sera du côté de Houston s'ils terminent premier pour ce 16e de finale, où ils vont croiser avec un groupe assez solide. Je crois qu'ils vont croiser avec le groupe de la Suède. Donc ça sera aussi assez solide côté marocain.
Suède, Japon, Pays-Bas, Tunisie. Oui, il est costaud.
Jamais facile. Et surtout, tu croises avec un deuxième, tu ne croises pas avec un troisième de groupe. Donc voilà, ça sera vraiment costaud si les Marocains se qualifient en 16e, mais je pense qu'ils sont quand même bien partis.
Merci beaucoup, Nico. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Quel est ton programme?
Aujourd'hui, je vais, parce que vous savez, il y a d'énormes distances dans ce pays. Donc les suiveurs de l'équipe de France sont partis du côté de Philadelphie, il y a même 7 heures de route. Donc moi, je suis du côté de Boston et je vais suivre la conférence de presse de l'équipe de France cet après-midi. Deux joueurs de l'équipe de France sont en conférence de presse. Donc je vais un peu remplacer Flo Germain, Arthur Perrault et Valentin
Germain. Pris la route 66 et qui traversent les États-Unis.
Exactement, les cheveux de Flo Germain au vent.
Oh là, il a plus des masses. Il risque rien de ce côté-là. Merci Nico. Bonne fin de journée. Bonne journée. Exactement, parce qu'il est tôt encore chez toi, du côté de Boston. Chez nous, il est déjà 15h40. Un petit mot sous les équipes africaines qui disputent cette Coupe du Monde. Il y en a quand même un certain nombre de cette saison. L'Afrique du Sud, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Égypte, le Cap-Vert, le Sénégal, l'Algérie, le Congo. Voilà, 9 équipes et plus le Ghana, 10 équipes africaines. Est-ce que tu as été agréablement surpris par certaines d'entre elles, désagréablement surpris par d'autres? Et quelle est, selon toi, celle qui va aller le plus loin dans la compète? On vient d'évoquer le Maroc. Pour toi, ça reste le Maroc avec le Sénégal, les équipes qui peuvent aller plus loin?
Je suis surpris, oui et non, parce que Je suis un peu les équipes africaines où je vois nettement le niveau qui a augmenté ces dernières années. Et quand on le voit à la Coupe du Monde, on le voit qu'ils sont ils sont pas venus juste pour participer à une Coupe du Monde. Ouais. Ils sont venus.
C'est vraiment différent de ce qui a pu se passer par le passé.
Maintenant, il y a des équipes africaines qui osent afficher leur ambition, alors que à l'époque on n'affichait pas nos ambitions.
On était content
d'aller à une Coupe du Monde sans oser dire que on veut viser le carré, le dernier carré ou autre chose. Mais maintenant les équipes elles sont là, elles viennent pour se qualifier déjà en premier temps, de sortir des phases de poule. Et ça, c'est la preuve que les nations africaines ont de l'ambition, et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça que j'apprécie beaucoup. On l'a vu notamment lors des matchs de poule où il y a eu beaucoup de résultats positifs de la part des nations africaines.
Ouais, c'est vrai. On rappelle donc la victoire de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur, le Ghana qui a battu le Panama, le Maroc qui a fait match nul face au Brésil avant de s'imposer hier soir.
Le Congo face au Portugal.
Bon, après il y a eu des défaites, hein, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Sénégal, donc on le disait, l'Algérie, mais bon. Il y a quand même possibilité pour beaucoup d'atteindre le deuxième tour. Et donc celle que tu vois aller le plus loin? C'est ce que ton cœur sénégalais va parler.
Je vais dire le Sénégal, étant donné que
faut pas se fâcher avec le Sénégalais.
Non, parce que non, j'essaie d'être le plus objectif. Au-delà de la défaite du Sénégal, je trouve que le Sénégal a une très bonne équipe, mais
à faire un super match face à l'équipe de France, première mi-temps de folie.
Mais c'est vrai que quand je regarde, par exemple, le Maroc hier encore, qui n'a pas été non plus brillant, mais qui a fait le nécessaire. Et ça, c'est encore une fois la marque des grandes équipes, parce qu'ils ont réussi à maîtriser ce match tout au long du match. Ils ont réussi à gérer ce match-là. Et comme je disais encore, ce sont que les grandes équipes qui peuvent faire ce genre de prestations. Hier, on a vu encore des joueurs comme Hakimi qui était en patron hier, qui a été encore décisif, parce que c'était pas évident ils confirment qu'ils sont là, quasi qualifiés. Donc, le Maroc aussi, je les sens bien.
Je les vois bien,
je les sens bien.
D'accord. Très bien. Eh bien, nous aurons l'occasion d'en reparler de ces pays africains qui nous régalent et qui effectivement ont passé un gap en termes de compétitivité dans cette Coupe du Monde. Il est 15h44. Une autre équipe africaine va disputer un match très important. Ce sera ce soir à 22h face à un géant du football mondial, l'Allemagne, la Mannschaft Allemagne-Côte d'Ivoire. Celui-là, il est bien excitant, ce match. Et on va en parler dans un instant avec Paulo Breitner, évidemment, qui va nous accompagner. Et puis également avec Jérôme Sillon qui va nous commenter le match, bien sûr. Voilà, Paulo Breitner, Jérôme Sillon, ça c'est du teuton dans le texte, hein. Tous les deux, ils parlent parfaitement allemand, ils vont tout nous dire. À tout de suite.
RMC Intégral Sport, Christophe Cessier.
15h47 sur RMC l'Intégral Sport. On parle de la Coupe du Monde. Souleymane Diawara est à mes côtés pour évoquer ce qui se passe ou ce qui va se passer. Et là, Souley, on va assister à deux belles rencontres ce soir. Pays-Bas-Suède, ce sera la première du jour. Ce sera à 19h tout à l'heure, hein, Pays-Bas-Suède. Les Oranges face à cette équipe suédoise. C'est un match typiquement entre Européens. C'est toujours intéressant de savoir ce que ça va donner.
Bon, ça va être intéressant. C'est un match intéressant où il y a une qualif aussi au bout. Donc, deux pays européens, et un match à ne pas rater aussi.
Ah non, et pas rater pour les Hollandais, hein,
C'est pour ça que je dis que c'est un match très intéressant, parce que les Hollandais, il va falloir qu'ils prennent les 3 points pour espérer être qualifiés pour les 16e de finale.
Ça leur ferait mal quand même de pas se qualifier pour les 16e de finale. Match. Et je sens que celui-là, il t'excite un peu plus. C'est celui qui va opposer l'Allemagne à la Côte d'Ivoire, parce que là, c'est c'est une opposition de style. D'abord, une grande nation européenne face à une grande nation africaine. Ce sera à Toronto ce soir à 22h. Jérôme Sillon sera au commentaire de ce match. Il est allé là-bas au Canada à prendre un peu le frais. Salut mon Jérôme.
Salut Chris, salut Soulé, bonjour à toutes et à tous.
Ça va être magnifique cette rencontre ce soir.
C'est vrai qu'on prend le frais à Toronto, t'as raison, parce que je sais que vous croulez sous la chaleur à Paris. Il a fait très chaud aussi la semaine dernière quand j'étais à Kansas City. Il fait très chaud à Miami et dans d'autres villes de cette Coupe du Monde. Mais Toronto et Vancouver au Canada, c'est vrai qu'il fait plus frais. Et aujourd'hui, on aura des conditions de jeu merveilleuses, un grand soleil et 24-25 degrés, ce sera vraiment
idéal. Oh là là, le vénard, profites-en. Nous, on nous annonce 44-45 degrés sur le nord du pays, lundi et mardi. Incroyable. J'ai vu des trucs tout à l'heure, c'est complètement hallucinant. Paulo Breitner, évidemment, notre spécialiste du foot allemand, est parmi nous pour évoquer la Mannschaft. Salut Paulo.
Bonjour Christophe, bonjour tout le monde.
Voilà, Paulo, à la fois dingue de foot allemand et encore plus dingue de vélo, je le sais. Et voilà, et on pourrait parler des heures avec Paulo de vélo. Alors, ce match, Allemagne-Côte d'Ivoire, les enjeux d'abord, Jérôme, quels sont-ils? Est-ce que
c'est très simple.
Ouais.
C'est très simple, je vais te la faire très courte. Les deux équipes ont gagné leur premier match. L'Allemagne, évidemment, très largement face à Curaçao. La Côte d'Ivoire, 1-0 contre l'Équateur. Le vainqueur de ce match sera qualifié pour les 16e de finale. Et le vainqueur de ce match pourrait même terminer premier si l'Équateur, dans le même temps, ne bat pas Curaçao. Bon, ça a quand même peu de chances d'arriver. Mais en tout cas, voilà, le vainqueur de ce match prendra une grosse option sur la première place qui permettra de jouer le 16e de finale à Boston. Donc voilà, ce serait évidemment historique pour la Côte d'Ivoire qui, en trois participations en 2006, 2010, 2014, génération Drogba Yaya Touré, n'a jamais réussi à sortir de la phase de groupe de la Coupe du Monde. Pour l'Allemagne, ce serait un retour à la normale, j'ai envie de dire, après les deux échecs, les deux fiascos même de 2018 et 2022 qui avaient vu la Nationalmannschaft se faire éliminer dès la phase de poule, ce qui est totalement une incongruité au regard du passé des quatre titres de champion du monde de l'équipe d'Allemagne, évidemment. Donc voilà, donc enjeu très important, et puis deux équipes surtout très séduisantes, très offensive, ça va aller très vite devant. Il y a énormément de qualité technique, on va y revenir, mais c'est vraiment un match qui s'annonce passionnant.
Ouais, Paulo, c'est la vraie entrée en matière de l'Allemagne qui a eu un adversaire relativement facile à affronter, mais elle a fait le boulot lors de ce premier match. Mais là, on rentre dans le dur, hein. On passe vraiment un gap en termes de niveau d'adversaire.
Hein. C'est exactement ça. J'ai écouté Souleyman sur ses équipes favorites africaines et moi je pense qu'il a oublié la Côte d'Ivoire pour une raison bien simple.
On n'avait pas le temps de tout citer, c'est pour ça. Mais sinon,
non mais je vais juste le dire pourquoi. C'est que évidemment après la rencontre de la première journée, on s'est focalisé sur le talent de Diomandé. Ok, moi je le vois toute l'année en Bundesliga, donc très bien. Mais moi ce que j'ai adoré dans cette équipe ivoirienne, c'est la solidité. Et pour aller loin dans une Coupe du Monde, l'histoire des Coupes du Monde est remplie d'équipes super talentueuses qui se font sortir parce qu'ils sont incapables de tenir pendant 90 minutes. Ce que j'ai vu de la Côte d'Ivoire lors de la première rencontre, même quand ils étaient dans le dur, c'est que c'est une équipe super solide. Je pense au milieu de terrain un peu moins talentueuse que l'équipe d'Allemagne. C'est-à-dire qu'on va avoir Wirtz Musiala d'un côté, on va avoir Kessié à la récupération, on va avoir les ailiers avec Diomandé, on verra si Touré qui joue à Hoffenheim aussi sera là ou pas. Mais en tout cas, c'est très intéressant. À tel point, moi, que alors ils ont été blessés, mais quand je vois Kossounou et Ndika ne sont pas titulaires pour le moment, ça veut dire qu'il y a du banc et c'est très très sérieux. C'est un formidable test pour la Nationalmannschaft et c'est un révélateur ce soir. Parce que moi je ne sais pas, j'ai dit que j'allais me laisser porter par la Nationalmannschaft pendant cette Coupe du Monde parce que je ne sais pas exactement où elle en est. Ok, 10 victoires à la suite, très bien, etc. Mais des matchs, la victoire sur les États-Unis en match préparatoire, etc., qui était très intéressante pendant 60 minutes. Mais moi je voudrais les voir en action contre une équipe très physique qui va les embêter. Et ce soir, c'est vraiment un match qui va peut-être donner des ambitions ou pas à la Nationalmannschaft.
Ouais, mais c'est vrai que ce match Allemagne-Côte d'Ivoire, c'est le match à ne pas rater aujourd'hui avec une équipe ivoirienne qui a déjà été plusieurs fois champion d'Afrique. Ils ont de la qualité partout et face à une équipe allemande qui a mis 7 buts face à Curaçao, où on disait tout à l'heure ils ont fait le job. Ça sera un vrai test de niveau. Et encore une fois, une nation africaine peut faire trembler un favori durant cette Coupe du Monde.
Alors, on va parlons, Jérôme, des individualités ivoiriennes. Déjà, est-ce que Wai est là ? A priori, il a pu avoir son visa, finalement, il a pu franchir la frontière.
Exactement, il y a deux jours, on était les premiers RMC à vous annoncer la présence d'Eli Wai au Canada, après des petits problèmes de visa. En fait, vous savez qu'il est... il a été entendu par la police concernant une affaire de paris sportifs. Il y a eu des énormes mises lors du match Nice-Metz de la 34e journée de Ligue 1 sur un carton jaune pris par Eli Wai, et il l'a pris ce soir-là. Donc il a été entendu par la police, qui n'a rien à lui reprocher. Il n'est ni mis en examen ni poursuivi, et donc le parquet de Marseille a envoyé ce document à la fédération ivoirienne, qui l'a transmis aux autorités canadiennes, ce qui a débloqué la situation et permis à Eli Wai d'être présent sur le sol canadien. Je l'ai vu à l'entraînement hier, tout sourire. Donc il est là, le Niçois qui appartient à l'Eintracht Francfort. On verra d'ailleurs s'il reste en Bundesliga la saison prochaine. Donc Eli Wai est bien là, évidemment.
Est-ce que tu l'as senti perturbé par cette affaire ?
Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour avoir discuté avec certains de ses proches, il était évidemment très déçu au moment où, dans un premier temps, la Fédé ivoirienne a annoncé qu'il ne faisait pas le déplacement. Mais on a discuté un petit peu avec ses coéquipiers hier, qui sont venus nous voir juste avant le match. On a parlé avec le petit Chris Toulahi. On a parlé également avec Ghislain Conan, l'arrière-gauche, ou encore avec Wilfried Tsingo. Et en fait, ils l'ont plus chambré. En fait, ils se sont moqués de lui. Ouais, tu viens pas avec nous. Tu vois, donc en fait, ils essayaient de te descendre l'atmosphère. Voilà, et en fait, non, il était un peu résigné, et il se disait surtout, je vais surtout me préparer pour le troisième match, s'il le faut. Mais voilà, donc je pense qu'il aura quand même envie de montrer certaines choses. Surtout, on le rappelle que Polo, on peut en parler, mais à Francfort, il a pas montré toute l'étendue de son talent.
Voilà, Francfort, si vous le laissez à Nice. Est-ce que Francfort, l'Eintracht va le laisser à Nice, Polo,
oui,
toi,
oui.
Tu sais tout.
Oui, on vous le laisse.
Ah, vous le laissez. Mais bon, on va éviter qu'il aille parier un peu n'importe comment quand même.
Ils ont pas les moyens, Nice.
On a tellement de moyens, Anis. Jérôme, il nous reste très peu de temps, une grosse minute, pour nous parler du nouveau phénomène ivoirien, parce qu'on a parlé de Louaï, mais il y en a un autre qui est tout jeune et qui a offert le but de la victoire, d'ailleurs, lors du premier match des éléphants. C'est Diomandé, ce jeune garçon de 19 balais, dont on dit le plus grand bien.
Oui, exactement. Il a été élu rookie de la saison en Bundesliga, meilleur jeune. Polo le disait, c'est un joueur qui a vraiment explosé cette saison en Bundesliga. Liverpool a offert 100 millions d'euros au RB Leipzig, qui a refusé cette offre, en attend 120 millions. Le PSG le suit aussi. Mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont encore ses coéquipiers. Je vous propose d'écouter justement Oulahi, Tsingo et Conan.
Tout m'impressionne chez lui. Son professionnalisme, c'est un bon gars, gentil. En plus, il est jeune comme moi, du coup, on se parle beaucoup, on est proches. Il est vraiment fort. Il est tellement rapide, il dribble, il finit. Il a tout. Pour moi, je pense qu'il a tout.
Non, c'est un super joueur, franchement, c'est un super joueur. Et à l'entraînement, c'est bien de jouer contre ces gens. Je jouais là, comme ça, au match vraiment, t'es prêt.
Pour être honnête, voilà, j'évite d'être en face de lui. Voilà, c'est quelqu'un de très bon. Il a des qualités énormes. J'espère qu'il ira très loin dans sa carrière.
Plutôt dithyrambique. Soulet ton avis sur le garçon.
Moi, ce gamin, c'est une pépite. À 19 ans, mettre une défense comme celle de l'Équateur, qui est réputée d'être très costaud,
rugueuse,
c'est pas donné à tout le monde. Donc, et ce soir, face à l'Allemagne, c'est vraiment le test ultime, je pense. Et moi, en tant que défenseur, je peux te dire que quand tu affrontes un joueur comme Diomandé, qui dribble comme ça, c'est...
Il casse un peu les reins, non?
Ouais, c'est un cauchemar. Tu ne sais jamais sur lequel côté il part. Mais voilà, s'il confirme contre la Mannschaft, on tient la révélation africaine de ce mondial, je pense. Le PSG, Liverpool, comme vous l'avez dit, ne le suit pas pour rien. Hein, si des équipes comme ça suivent Diomandé, c'est qu'il a d'énormes qualités.
Ouais, et bon, on verra s'il reste en Allemagne. Polo est sur le coup.
Diomandé Kimmich ce soir. Kimmich, le duel va être extraordinaire. Kimmich très offensif, mais qui ne joue plus en équipe du Bayern, évidemment, au poste de latéral droit, et je pense que ça va être une des clés du match. Il y en a trois de côté allemand. Il y a la prestation très moyenne de Leroy Sané lors de la première journée, et puis il y a un joueur qui est en train de passer un cap, c'est Nmecha. Est-ce qu'il est capable de garder contre une grosse équipe comme la Côte d'Ivoire son intensité qu'il a mis contre Curaçao? C'est très très important, et pour ça que cette Ce match va être plein d'enseignements, aussi bien pour l'équipe africaine, pour voir si on peut aller loin, aussi bien pour la National Mannschaft.
Eh bien, on va se régaler. Ce sera donc ce soir, 22h à suivre, évidemment, sur RMC, en même temps que la deuxième demi-finale de rugby entre Montpellier, entre cette équipe de Montpellier, du Stade Français, et donc Côte d'Ivoire, Allemagne. Voilà le programme de la soirée. Merci Soulé, merci de m'avoir accompagné. Comme quasiment tous les jours, il est là, Souleymane Diawara, sur le coup, dans cette Coupe du Monde. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Arnaud Valadon, qui va prendre le relais. On va parler de foot, j'imagine. La Coupe du Monde approche, mon petit Arnaud.
Du foot, du rugby, on
ah bah oui, foot et rugby au programme.
Escrime un petit peu aussi.
Un peu d'escrime, c'est
championnat d'Europe, à partir de 17h, il y a
des
finales. Non, pas de vélo, mais on aurait pu. Même si le Tour de Suisse, on regarde. Mais voilà, pour le programme qui arrive, l'Intégral Sport qui continue, on sera en compagnie de Jean-Pierre Papin pour les deux prochaines heures.
RMC Intégral Sport.